Sur fréquence Paris Pluriel, bonjour, 106.fm et sur internet, bien sûr, ça c'est pour les 106.3, c'est pour ceux qui habitent Paris, c'est ce qu'on appelle les radios, nous sommes ce qu'on appelle la radio de proximité, si vous habitez Paris ou la région parisienne, si vous habitez ailleurs dans le monde, jusqu'au taf. Tape sur les territoires français perdus dans l'océan. Voilà, vous allez sur internet, c'est www.rfppr, c'est la radio et c'est le nom fpp.net. Et vous nous avez exactement comme si vous étiez à Paris. Voilà, l'équipe est en place. Vous salue Hortense, vous, là vous allez voir tout à l'heure, hein, vous allez entendre les pets d'énergie. Et Lucien, sans Lucien évidemment, qui est à la technique. On aura pote gentil, vous aimez, mais on ne pourrait pas vous parler. Voilà, on est là pour vous permettre de vous parler. Aujourd'hui 8 novembre, samedi 8 novembre, on va vous parler, vous savez, l'actualité brûlante sur le continent, à savoir ce qui est arrivé au Burkina Faso, que l'on traduit pour les non-Burkinabés, traduisent par pays des hommes intègres. Parfois, avec les choses qui se passent, on te dit qu'est-ce que ça peut signifier le mot intégrité. Bon, ça c'est un autre problème. Les invités du jour, on va donc essayer de voir ce problème-là à la fois. Pourquoi c'est arrivé, l'aspect, les conséquences, puis la situation. On a la chance d'avoir sur la table ici notre un Burkinabé. On ne pouvait pas mieux trouver son propre pays. Je crois que vous êtes. Koulibaly, Adama Koulibaly, qui dirige une AOS, une association loi 1901 qui s'appelle, le nom, on ne pourrait pas mieux tomber non plus, pour lutter contre la confiscation, presque au sens propre, le garder, prendre, mettre dans la poche, le garder. C'est vraiment au sens propre, la démocratie, pas seulement pour son pays. Enfin, il me dit qu'il a commencé, qu'ils ont commencé pour son pays, parce que c'est Burkinabé, les fondateurs. Mais ils ont déjà préparé le plan d'élargissement sur le continent. Hélas, hein, voilà. On aura surtout, parce qu'il n'est pas sur la table, Yves Ekwe-Mazoi, qui est un expert économiste que beaucoup d'entre vous connaissent d'ailleurs, parce qu'il intervient beaucoup dans les médias sur nos questions africaines. Il vit en Autriche, à Vienne. Il a accepté, parce que c'est pas simple, vraiment des problèmes de téléphone ou d'horaire, et il va intervenir dedans là pour vraiment le regard économique, surtout les conséquences économiques qui sont les causes économiques qui sont à l'origine de ce qui est arrivé, et surtout quel impact économique, développement bien entendu, ça sous-entend aussi à la fois dans pour le pays lui-même, hélas, qui n'était déjà pas terrible, vraiment, ce qui va arriver, et puis la sous-région. On a, le troisième et dernier invité du sujet, c'est Bakayla, le blogueur que vous connaissez, qui était la semaine dernière déjà avec nous. Il n'est pas encore là, mais il, dans les minutes qui viennent, vous savez, bon, l'hiver a commencé, et puis parfois aussi, c'est pas évident de trouver de quoi, ça dépend où on habite, trouver le transport en commun, tout ça, mais il va arriver, vous l'aurez là, et puis nous, là, il suit cette affaire-là, comme d'autres depuis que c'est arrivé, hein, c'est quelqu'un, c'est un observateur averti, Makayla, voilà, on fera avec ça, avec lui, et puis donc, aujourd'hui, le 8 novembre, 2014. Voilà. On va commencer. Hortense, bonjour.
Bonjour Paul et bonjour à tous les auditeurs.
Voilà. Tu vas commencer peut-être nous dire un peu comment ça va se dérouler l'émission d'aujourd'hui et pour ce sujet si important parce que il y a du feu au Burkina Faso.
Ben effectivement, notre émission, comme Paul l'a dit tout à l'heure, concerne la situation qui prévaut actuellement au Burkina Faso. Et nous allons diviser notre émission qui dure 2 heures de temps en 4 parties. Donc la première partie portera sur une présentation assez brève de ce pays qu'est le Burkina Faso, parce que je pense qu'il est toujours mieux pour nous, comme ça, de présenter ces pays aux auditeurs qui forcément ne le connaissent pas. Peut-être juste le nom, mais où est-ce qu'il se situe sur le continent. Donc cette tâche est dévolue à Monsieur Koulibaly Adama. Donc, qui pourra nous en dire un petit peu plus. Ah ben, c'est très bien parce que là, il y a Makaila Ngebla qui arrive, le journaliste blogueur, un spécialiste du continent africain. Ben, nous lui souhaitons la bienvenue. Bonjour, Makaila. Alors, en deuxième partie, nous parlerons du défi qui a des causes profondes, parce que c'est, pourquoi y a-t-il eu ce soulèvement? Pourquoi cette insurrection populaire? Donc, nous chercherons à savoir les causes profondes du soulèvement populaire. Donc, sur le plan économique, sur le plan politique. Et c'est là qu'interviendra aussi notre économiste, le docteur Yves Amaïseux, qui se trouve de l'autre côté, par téléphone d'ailleurs, en Autriche. Et dans une troisième partie, nous parlerons du défi qui attend le futur président, parce que la tâche est qu'elle, elle est ardue. Donc, qu'est-ce qui attend vraiment le futur président? Qui sera-t-il? Nous aurons une réponse suite à cette question. Et en dernier ressort, nous parlerons de l'impact de cette insurrection dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. En deuxième partie, la sous-région de l'Afrique centrale et de l'Afrique tout court. Donc, ce sont les différentes étapes que suivra notre émission ce matin.
Fréquence Palpurée 106.3. Vous écoutez donc Forum africain ce samedi 8 novembre avec le sujet principal central qui est donc le Burkina Faso, avec ce que vous connaissez déjà, même si vous n'êtes pas africain, vous connaissez ce qui se passe dans ce pays-là. Sauf que parfois, vous ne savez même pas où ça se trouve. C'est pour ça que Hortense a dit qu'on vous dira d'abord, on va essayer de vous aider à vous retrouver, à mettre dans la tête ou sur la carte. Surtout si chez vous, vous avez une carte d'Afrique sous les yeux. Et va essayer, on va, avec l'aide de notre ami Koulibaly, de vous situer d'abord le pays. Et voilà.
Oui, avant de commencer, nous allons dire bonjour à notre invité qui se trouve à l'autre bout du fil. Bonjour, docteur Yves Amaïseux.
Bonjour, toute l'équipe.
Bonjour, Yves, bonjour.
Non. C'est un réel plaisir pour nous que vous ayez accepté notre invitation.
C'est vrai que tu te vois sur la table, on ne te voit pas. D'accord. Bonjour.
Alors, comme vous l'a dit Paul, donc nous allons démarrer par cette présentation brève du Burkina Faso. Alors, Monsieur Adama Koulibaly, le Burkina Faso, qu'est-ce que c'est le Burkina Faso? Où se trouve-t-il? Et comment, quelles sont les différentes étapes qu'a suivi ce pays pour que nous en arrivions là?
Bonjour. Le Burkina Faso est très connu depuis le capitaine Thomas Sankara, peu plus que d'habitude.
C'est vrai.
Et le Burkina est un pays d'Afrique de l'Ouest, une ancienne colonie française, et qui n'a pas d'accès à la mer, qui est situé au nord, qui a une frontière au nord, à son nord avec le Mali, à l'est le Niger, au sud-est il y a le Bénin, au sud il y a le Togo et le Ghana, au sud-ouest il y a la Côte d'Ivoire. Sur le Burkina, je disais tantôt, c'est une ancienne colonie française. Mais ce qui nous intéresse...
Qui s'appelait avant Haute Volta.
Haute Volta. C'était la Haute Volta qui a été créée. Et la colonie de Haute Volta a été créée dans un premier temps le 1er mars 1919. Ensuite, il a été démantelé le 5 septembre 1932. Démembré. Est réparti entre la Côte d'Ivoire, le Mali et le Niger. Le 4 septembre 1947, il y a eu la reconstitution de cette colonie dans les limites de 1932. Le 11 décembre 1958, cette colonie est devenue une république, la République de Haute-Volta. Le 5 août 1960, l'indépendance formelle telle que nous la connaissons aujourd'hui.
Et qui est le premier président à ce moment-là il accède à l'indépendance?
Maurice Yameogo est le premier président de la Haute-Volta indépendante et qui a été victime d'un soulèvement populaire.
Il était renversé par un soulèvement.
Déjà, bien entendu. Déjà,
en 1966.
Déjà, en 60.
Alors, pour continuer la présentation, bref, c'est que la Haute-Volta est devenue Burkina Faso en 1984. Et le 4 août 1984.
À quelle occasion?
Alors, c'est suite à la prise de pouvoir par le capitaine Thomas Sankara avec ses trois autres camarades, qu'on appelle les quatre chefs historiques de la révolution de 1983. Ils ont décidé, donc, en ce moment-là, de changer le nom du pays pour lui redonner sa dignité.
Est-ce qu'on peut connaître les noms de ces quatre chefs historiques?
Eh bien, les quatre chefs historiques, c'était donc Thomas Sankara, bien entendu, Blaise Compaoré, et le commandant Lengani, et le capitaine Henri Zongo. Jean-Baptiste Lengani et Henri Zongo. Évidemment, parmi ces, pour vous dire, les quatre chefs historiques qui étaient les chefs de la révolution, eh bien, ont été successivement assassinés, et il en est resté un, et qui vient de fuir le pays, le capitaine Blaise Compaoré, qui les a tous éliminés.
Lors de ce coup d'état du 4 août, c'était lors de ce que les trois ont été assassinés ou c'est plus tard?
Disons que...
Il y a Sankara qui est décédé ce jour-là.
Sankara, avec certains de ses camarades, ont été fauchés. Ils ont été abattus. Une année après, Lengani et Zongo ont été passés par les armes.
Oui. Extrajudiciairement, d'ailleurs.
Bien entendu, extrajudiciairement.
À la descente d'avion,
C'est en 1987, ça. 84, le coup d'État.
Le 84, le coup d'État
a lieu à quel moment?
Lequel le coup d'État?
Alors, parce qu'il y a le premier coup d'État qui amène Sankara au pouvoir.
Et ses camarades.
Alors, et ses camarades, les quatre, revenons
un peu en arrière. Voilà. On dit que il y a eu un soulèvement populaire en 1966.
Le premier, et
l'armée en a profité pour faire un coup d'État en règle. Et depuis lors, cette armée n'a plus jamais quitté le pouvoir. Donc, sur sept présidents, nous en avons six qui sont militaires jusqu'à présent. Et ensuite, il y a eu un autre coup d'État et en 1982.
Oui.
Qui a renversé le général Lamizana.
Qui avait remplacé colonel Yamego.
Voilà. Comment?
Qui avait remplacé Yamego.
Oui, qui avait remplacé Yamego. Ouais. Et le colonel Seyzerbo, qui est l'auteur de ce coup d'État, a été lui-même victime d'un autre coup d'État. Et le commandant Jean-Baptiste Ouédraogo est arrivé au pouvoir et Sankara était premier ministre en ce moment. Il a mis Sankara aux arrêts quelques temps après, le 4 août 83, et lui-même a été victime d'un autre coup d'État avec Blaise Compaoré qui est descendu de Pau, de son régiment de commando de Pau, pour venir prendre le pouvoir. Et Sankara avait été incarcéré. Il a fallu des soulèvements populaires pour que Sankara soit libéré. Voilà. Et c'est en 87, il y a eu donc le coup d'État de Blaise Compaoré.
La plus sanglante, peut-être.
La plus sanglante.
La plus brutale, la plus sanglante.
Disons que avant le coup d'État, avant le 4 août 83, qui a consacré la prise de pouvoir par Sankara, les coups d'État précédents s'étaient faits sans effusion de sang. Et donc ça a commencé en 83 avec l'assassinat de certains officiers supérieurs de l'armée. Et ensuite, Compaoré a poussé ça très loin.
D'accord, on arrive donc en 1987, où le coup d'État qui élimine Thomas Sankara a lieu.
Absolument.
Et c'était ce moment que Compaoré accède au pouvoir.
Absolument. Compaoré, il prend le pouvoir dans une violence extrême. Il était en train de dormir, comme il dit, quand Sankara est assassiné, c'est toujours comme ça, quand il est absent, il faut craindre quelque chose. Voilà pourquoi il faut s'inquiéter maintenant qu'il est hors du pays, parce qu'il a peut-être une capacité de nuisance, ça c'est une parenthèse que je fais. Pour en revenir donc à 87, Compaoré a proclamé ce qu'il appelait la rectification de la révolution. Donc pendant 4 années, il est resté dans une situation d'état d'exception encore, sous la pression populaire de la société civile, parce qu'il y a des démocrates qui se battaient depuis les indépendances au Burkina, bien avant les indépendances, les voltaïques se sont battus pour l'indépendance déjà, à travers notamment le RDA et d'autres organisations, le Rassemblement démocratique africain, qui est l'un des plus anciens partis d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique francophone, qui s'est battu sur des valeurs, les valeurs de l'indépendance, les valeurs de la liberté, les valeurs du panafricanisme. D'ailleurs, il y avait des idées de regroupement à ce moment-là. Donc, il y a des syndicats qui étaient absolument puissants au Burkina et qui ont réussi à mobiliser avec la société civile et les partis politiques d'opposition l'ensemble de la population qui s'est soulevée, ce qui a pu permettre la chute de Maurice Yamuhigo. Malheureusement, déjà là, la victoire a été confisquée par l'armée. Alors, mais depuis, à partir de ce moment, ça ne s'est pas arrêté. Il y a eu quand même des luttes populaires, des luttes syndicales, des luttes de revendication de la liberté, d'aller venir, des luttes pour la démocratie. Et ce qui a pu permettre d'ailleurs un soutien à Sankara lorsqu'il est arrivé avec ses idées révolutionnaires. Et donc, le peuple, une bonne partie de la population l'a suivi au-delà même des frontières du Burkina. Ce qui fait aujourd'hui la popularité de Sankara à travers, au-delà même de l'Afrique, hein, beaucoup d'Européens. Voilà. Voilà.
Avant peut-être d'entrer dans le vraiment débat, peut-être que Yves de Vienne, il n'est pas très loin de Burkina, hein, parce qu'il vient de Togo. Peut-être que Yves, qui est un observateur, pas seulement en économie, mais il a passé l'économie en politique ou l'inverse. Yves, à moins que Yves a un petit complément à ce petit bref historique qu'on vient de faire, Yves.
Oh, c'est très simple. D'abord, je remercie la présentation qui a été faite, que je trouve très, très éloquente. En réalité, je vais résumer tout ça. C'est-à-dire que ce n'est pas propre, d'ailleurs, au Burkina Faso. C'est un problème beaucoup plus profond de la transmission et du pouvoir dans les pays francophones africains. Et donc, comment ça se passe entre l'ancienne colonie, l'ancien patron de la colonie, la France, et ces nouveaux États dits indépendants, et qui posent d'ailleurs le problème de l'indépendance, si elle est simplement sur papier, donc juridique, et qu'elle ne l'est pas sur le plan économique, on reviendra dessus. Et j'en conclus, de tout ce qui vient d'être dit, qu'il s'agit d'une simple confiscation du pouvoir, le refus d'écouter le peuple, et paradoxalement, sort de cela toujours un groupe militaire, généralement petit ou moyen ou grand,
cadet, comme on appelle.
La confiscation finit, au fond, par s'aligner sur les positions que souhaite l'ancien patron colon du pays, c'est-à-dire la France. Alors, les degrés seront divers, et on le verra dans
absolument,
le débat.
Absolument.
Mais au fond, il s'agit de régimes militaro-civils qui, de temps en temps, prennent la forme tels qu'ils sont, bruts, c'est-à-dire militaires, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui au Burkina, mais très rapidement, compte tenu de l'environnement, compte tenu de la globalisation, compte tenu des différents États, et surtout le refus de la France de prendre ses responsabilités, de ses engagements, souvent discrets, voire secrets, dans ces pays,
assumer son histoire,
de mettre des civils.
Merci Yves, on va revenir là. Makala, tu as un mot, tu le fais, et puis après on écoute un peu de musique pour détendre, voilà. Avant d'entrer dans le... Je t'en prie, vas-y.
Donc, d'abord, je m'excuse du retard que j'ai occasionné pour revenir à ces débats assez importants, le Forum africain. Et je remercie également Adama Koulibaly pour son éclairage historique sur le Burkina Faso. Merci également à Yvan qui, depuis Vienne, a pu pointer du doigt la responsabilité d'un acteur extérieur, notamment la France. Effectivement, si on voit l'éclairage d'Adama, c'est qu'au Burkina Faso, ce peuple dit, peuple intègre, à une culture, effectivement, des révolutions, culture d'insurrection, culture d'insoumission à des régimes autoritaires. Donc, nous, on rend hommage en tant que militants africains, en tant que journalistes africains, en tant que démocrates africains, nous rendons hommage aujourd'hui à ce peuple burkinabé qui a fait notre fierté par un soulèvement populaire pour renverser un régime qui a duré 27 ans. Vous savez, c'est un peu dommage, c'est un peu triste que de voir dans la plupart des pays africains des régimes perdurer 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans au pouvoir, sans qu'il y ait alternance politique, sans qu'il y ait effectivement changement pacifique dans ces pays-là. Effectivement, les Burkinabés nous ont ouvert la voie d'un changement. Je pense qu'à partir du changement opéré au Burkina Faso, aujourd'hui nous déplorons quelque chose, nous déplorons que la récupération soit faite à Paris. Ça, nous n'admettons pas. C'est une victoire burkinabé, c'est une victoire populaire africaine. Il faut qu'à Paris, les gens se ressaisissent.
On est là. Quand tu parles des 40 ans, l'exemple du Gabon, 42 ans.
Tout à fait.
Bongo est resté au pouvoir 42 ans. Et il n'a même pas temps de faire un hôpital. Quand il est tombé malade, pour mourir, il a préféré mourir
à l'extérieur.
En Espagne, pour ne pas dire le pays. Parce qu'il ne voulait pas venir en France. Voilà quelqu'un qui se méfie de la France, il vient en Espagne. Qu'est-ce qu'on est idiot.
Oui.
Bon, la musique, un peu de musique, Lucien, et puis on entrera dans le vif du sujet. Paris pluriel 106.3 FM. Voilà, malheureusement personne n'a écouté notre artiste. Personne n'a écouté qu'en parler comme les autres n'ont pas écouté les Eyadema et les autres comme ça, les billards, etc. Les débits, personne n'a écouté. Hélas, en quelque sorte, si ce qui est arrivé était plus ou moins
prévisible.
Exactement, prévisible. Je crois que c'est Yves qui l'a dit tout à l'heure. Que malheureusement, vu les l'ambiguïté, ce qu'on appelle les indépendances africaines, ça me fait toujours rire quand j'écris, quand je mets tous les guillemets, on me dit tu fais la provocation. Non, c'est parce que c'est ce que je crois. Ben vous n'êtes pas obligé de mettre quand vous écrivez, écrivez directement. Ne mettez pas comme moi. Hortense.
Oui. Mais écoute, cela nous amène directement à embrayer sur la deuxième partie de notre émission qui, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez évoqué, hein. Oui. Vous avez parlé de soulèvement. Alors, quelles sont les causes profondes de ce soulèvement? Parce que pourquoi est-ce que ce peuple, certes, il a l'habitude de se révolter, mais on l'a vu quand même pendant 27 ans, à un moment, un peuple léthargique. Qui n'a rien dit. Thomas Sankara est mort par effusion de sang. On sait qu'il y a beaucoup de personnes de Burkinabé en Afrique, forcément, étaient, mais tout le monde s'est retenu. Ils ont souffert, si on peut dire, je ne sais pas, peut-être c'est le cas de le dire, le martyr pendant 27 ans. Comment se fait-il? Pourquoi ce peuple, du jour au lendemain, et d'une façon aussi sublime, aussi rapide que, éjecte un chef de l'État du pouvoir? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on en arrive là?
Disons que les Burkinabés n'ont pas été surpris, si ce n'est de la rapidité avec laquelle les choses ont pu se passer au dernier moment. Mais il y a bien longtemps qu'il y a un ras-le-bol. Personne n'a jamais accepté la manière sanglante dont le capitaine Compaoré a assassiné, massacré Thomas Sankara et ses compagnons. Sankara était un patriote qui, certainement, on pourrait revenir sur beaucoup de choses qui sont passées sous le CNR, le Conseil National de la Révolution, parce qu'il y a pas mal de Burkinabés et qui aussi ont senti très durement dans leur chair, pas seulement des bourgeois, mais aussi des révolutionnaires ou des patriotes et des gens simples qui ont senti qu'il y avait aussi une chape, même si sur le discours, dans le fond, sur la volonté, il y avait quand même quelque chose qui était de l'ambition de l'Afrique grande et debout. Maintenant, et quand Sankara, d'abord, on n'a jamais accepté cette manière violente. Ensuite, il y a une chape de plomb qui a été installée,
qui s'est abattue
sur l'ensemble du pays, avec des soutiens extérieurs. Le président Oufouette à l'époque et le vieux Adema ont soutenu cette élimination de Sankara avec la bénédiction de la France des Mitterrand.
Même plus que soutenu.
Voilà, avec la bénédiction de la France des Mitterrand. Alors, ils l'ont organisé ensemble. Maintenant, et par la suite, Compaoré a instauré un système machiavélique, mafieux, sur l'ensemble du pays, sur le plan politique. Il a noyauté tout. Il a accepté par la force des choses, par la mobilisation populaire des organisations de la société civile et des partis politiques d'opposition, et l'idée d'une constitution. Et comme nous voulions la paix, nous voulions pas, le peuple burkinabé ne voulait pas de la violence telle que lui, il nous renvoyait. Voilà, il la pratiquait.
Telle qu'il la concevait, lui.
Bien sûr, nous avons été, au niveau des organisations de la société civile, des organisations démocratiques, des partis politiques, organisés. Certes, il y a des gens qui l'ont soutenu. Parce que c'était quand même une situation assez complexe. Alors, sur le plan, il a accepté cette constitution, mais il a verrouillé, comme vous l'avez vu, comme tous les observateurs l'ont constaté, mais surtout sur le plan économique. Il a affamé beaucoup de gens. Il y a une paupérisation incroyable dans le pays, concomitamment à l'enrichissement extraordinaire de son clan. Et l'économie et la finance du pays étaient sous la férule du clan Compaoré et c'était dirigé par son frère.
François
Compaoré et la belle famille du président, dont d'ailleurs cette belle-mère. Et là, donc la belle-mère de François Compaoré était même récemment la présidente du Conseil économique et social.
Du Burkina Faso.
Non, pas du Conseil économique, pardon, de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Oui.
Est-ce qu'elle avait les compétences
pas requises? Pas du tout. Elle avait des compétences que de demander de l'argent et d'exproprier beaucoup de gens et d'utiliser des opérateurs économiques qui, eux aussi, les petits opérateurs économiques, ont souffert aussi sous ces régimes-là. Donc, que ce soit les opérateurs économiques, les hommes politiques, les démocrates, les enfants qui ne pouvaient pas aller à l'école, et il y avait une situation intenable dans ce pays. Mais il y avait surtout l'intelligence de la société civile, des partis politiques d'opposition, des démocrates, des révolutionnaires, ce pays, qui se sont organisés. Il y a eu beaucoup de soulèvements. Ce n'est pas le premier soulèvement sous l'ère Compaoré. Il y en a eu plusieurs. Il faut se rappeler de l'assassinat violent de mon ami, enfin de notre ami, de notre frère, Norbert Zongo, et avant Norbert Zongo, des étudiants qui ont été assassinés aussi, dont notamment Dabo Boukari, qui a été torturé et noyé dans une baignoire de la présidence, par exemple.
Donc, récemment, un juge qui statue sur l'affaire de la tombe.
Ça, c'est plus récemment.
Quand
on se souvient aussi de la manière dont Norbert Zongo et ses camarades, ses trois camarades d'infortune, ont été assassinés, tués par la garde présidentielle et brûlés,
calcinés,
et ce n'était pas possible, il y a eu un soulèvement, et le clan Compaoré aurait pu perdre le pouvoir, déjà en ce moment, il l'avait quasiment perdu.
Qu'à ce moment où les arguments sont tellement forts, comme vous le dites, il est sur le point de pouvoir, comment il réussit à s'en sortir, comment ça se passe?
Il a, comme on disait de certains, il a une baraka. Vraiment, il a eu, disons que ça peut se comprendre parce qu'il avait tellement démantelé l'opposition, il avait tellement démantelé le mouvement démocratique qu'il était à des moments, à des périodes de ce genre, il a été difficile pour le peuple qui était quelque part un peu hébété de s'organiser, de prendre le pouvoir tout de suite, de s'unir. Et de toutes les façons, il avait tellement démantelé l'armée. Vous en voyez justement l'illustration aujourd'hui. Comment un chef d'état-major, général des armées, peut être aussi impopulaire au sein de la troupe et au sein de la population civile. Il y a eu 3 milliers. Nous avions, le 1er novembre, trois présidents. Blaise Compaoré qui les revendiquait encore.
Un triumvirat qui dirigeait déjà
bien sûr. Et Zida. Mais Zida l'a remporté parce que c'est l'unité, vraisemblablement, qui est la mieux dotée en armement et la mieux formée aujourd'hui.
Les autres
ne pouvaient pas faire front face à ça. Donc, toujours est-il que ça, c'est une affaire militaire. Mais ce qui nous importe, c'est que le peuple s'est soulevé suite à l'assassinat de Norbert Zongo. Les sous-peuples se sont soulevés. Il y a eu des émeutes de la faim en 2008.
C'est vrai.
Oui, des émeutes de la faim en 2008. Il y a eu en 2011 également des soulèvements populaires, oui. Des manifestations des organisations démocratiques qui ont été suivies par des mutinés.
Par les élèves, je pense.
Mais bien entendu. Oui, bien sûr, il y a eu des assassinats d'élèves qui ont provoqué
des soulèvements. Le corps enseignant dans son ensemble.
Bien sûr. Donc, il y a eu donc des soulèvements qui ont été suivis par une mutinerie militaire de toutes les garnisons du pays. Il a réussi, encore une fois, avec des soutiens, et beaucoup de soutiens, pas seulement du Burkina, à récupérer la situation. Et puis, depuis 2011, il y a quand même cette colère qui grondait en chacun des Burkinabés. Mm-hmm. Les femmes, les hommes, les enfants, les jeunes. Et beaucoup d'anciens aussi, qui ne comprenaient pas que le pays sombre avec un seul individu de cette manière.
Oui,
et que cet individu soit adulé surtout par l'extérieur. Et Compaoré, même suite à l'assassinat du juge...
C'est le faiseur de paix de la sous-région.
Suite à l'assassinat du juge Nébier. Suite à l'assassinat du juge Nébier, qu'est-ce s'est-il passé? Il s'est passé que des amis de Compaoré sont venus avec des médecins qu'ils ont choisis pour dire que c'était une mort quasi naturelle, que c'était un accident.
Comme on l'a dit pour Sankara.
Un accident.
Sankara, on a fait marquer ça. Compaoré a fait marquer mort naturelle.
Absolument.
Il a fallu l'intervention de l'ONU pour que ce type accepta de changer au moins ce mot par le minimum de respect pour les morts.
Mais bien entendu. Voilà, donc, il est clair que le peuple burkinabé en avait marre. Mais comme il y a une tradition d'organisation, évidemment, la mobilisation, notamment celle du 28, et ensuite celles qui ont suivi par la suite, était bien encadrée, bien organisée, et les jeunes étaient d'ailleurs les plus déterminés, ont poussé même l'opposition républicaine, qui voulait juste que
Compaoré ait été porté par la jeunesse.
Oui. Mais bien entendu. Il ne faut pas oublier non plus la manifestation des femmes. Qui a été d'ailleurs... Donc c'est toutes les couches de la population qui se sont mobilisées. 2011, les militaires, et cette fois-ci, l'ensemble. Donc il ne faut pas croire que l'armée est unie en ce moment. L'armée est désunie, certes, mais il y a des militaires qui ont des conditions de vie aussi déplorables que celles de la population.
En fait, Koulibaly, le régime était militaire, mais s'habillait en manteau civil à l'algérienne ou à la...
Mais c'est ce qu'il a fait lui-même, d'ailleurs, puisqu'après, il s'était parti de son trier militaire, il était devenu président civil, Compaoré.
Bien entendu, juste pour amuser la galerie, pour satisfaire, justement...
On va demander à Yves à Vienne si vraiment cette situation que aggravée par la politique ou l'inverse, l'économique aggravée par la politique, était seulement parce que le pays n'est pas un pays riche où il y avait des éléments domestiques, comme disent les Américains, propres donc au pays qui ont amené les Burkinabés à ce point. Peut-être qu'ils n'avaient plus rien à perdre. De toute façon, on en est arrivé là. Tant pis s'ils nous tuent tous. Au moins comme ça, on aura le monde entier témoin. Si tu as un mot à ajouter, Baïkala, avant qu'on aille à Vienne.
Mais donnez la parole à Yves.
Je reprendrai. Pardon, Yves. Voilà ce que je viens de formuler. Est-ce que dans cela, c'est tout simplement parce que ce pays est enclavé, comme on dit, où il y avait, j'allais dire, la malgouvernance économique, docteur?
Alors moi, je merci beaucoup pour toutes ces informations. D'abord, enlevant ce qui certainement n'est pas important à ce point précis, c'est-à-dire le fait d'être enclavé. La notion d'être enclavé est une notion géographique, et il y a beaucoup de pays enclavés qui s'en sont très bien sortis. Donc enlevons ça, et soyons peut-être encore plus précis. Il y a deux conjonctions. On est sorti de ces années 60 avec des individus qui sont sous tension et surtout sous contrôle extérieur, principalement la France. Quand je dis la France, c'est la France publique, l'État français, mais aussi la France du secteur privé, le patronat français, notamment ceux qui agissaient en Afrique, qui, eux, ne voyaient pas du tout la fin de tous les comptoirs, quels que soient les noms qu'ils leur ont donnés, s'arrêter. Et donc, un peu comme ça s'est passé en Afrique du Sud ou ailleurs, il fallait, entre guillemets, céder une partie de ce pouvoir dit politique pour mieux renforcer la partie économique. Donc je résume cette partie en disant, la dépendance économique du Burkina Faso n'a fait en fait que s'amplifier. Et pour le faire, il faut donc des représentants qui acceptent ce principe de l'alignement sur les forces postcoloniales et ensuite puissent jouer le jeu jusqu'au bout. Donc, accepter l'alignement sur les forces postcoloniales, des exemples ont été cités, avec l'exception de Sankara qui a dit non. Et puis, il fallait trouver un moyen de faire que cet alignement se poursuive. C'est Churchill qui disait, si vous voulez créer des conservateurs, donnez-leur quelque chose à conserver. Et donc, il suffisait d'identifier s'accrocher. Des acteurs, c'est-à-dire des militaires, les moins, je ne vais pas dire intelligents ici, mais en tout cas les moins aptes à comprendre les intérêts stratégiques et du pays, Burkina, et des populations, peut-être même pour empêcher cette population de s'exprimer, et les alimenter, c'est-à-dire leur donner quelque chose à conserver, clairement de l'argent, ce qui explique les clics dont a parlé Koulibaly tout à l'heure. Et à partir de ces deux conjonctions, vous voyez bien que l'alignement, il devient quasiment total, puisqu'on n'a plus besoin de réfléchir, on attend les ordres qui viennent de l'extérieur. L'extérieur, cette fois-ci, avec la globalisation, ne se limitait plus à la France, mais c'est étendu à l'ensemble des partenaires français, notamment les Occidentaux, et qui ont des intérêts divers, militaires et autres, avec ce pays. Maintenant, sur votre deuxième partie de votre question, les causes internes. Ça reprend d'ailleurs ce que je dis encore une fois. Ceux qui sont arrivés, ce que j'appelle le maillage décisionnel, ceux qui sont arrivés à comprendre qu'il y a de deux choses l'une. Soit on s'oppose à ce système, et donc il faut s'organiser collectivement et avoir un leadership qui puisse aller vers cela. Encore faut-il que ce leadership, quelque part, ne soit pas nécessairement militaire. Sankara venait de ce circuit militaire, et donc on s'est retrouvé, en fait, à trouver un règlement de compte au sein des militaires, et que chacun sait maintenant le résultat. Et ce règlement de compte n'était pas uniquement entre militaires, parce qu'il fallait bien qu'on donne des moyens, des armes, des facilités, du renseignement. Et du coup, les pays comme la France, ou les pays extérieurs qui avaient un intérêt à ce que le système ne change pas, en tout cas ce ne soit pas la position des populations, avaient intérêt à soutenir tel ou tel ou tel régiment plus qu'un autre. Si le lieutenant-colonel Zida sort aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il a bénéficié, mais énormément, d'un appui terrible. On pourrait revenir plus tard sur l'argent et des choses comme ça. Alors, les causes internes qui font que ça arrive, c'est que l'impunité qui a quasiment accompagné ce pays depuis les années 60, ne pouvait pas exploser, sinon les populations faisaient pendre pratiquement tout le monde après jugement. Donc il faut que ces militaires, d'une manière ou d'une autre, qui se sont toujours associés, et je parle bien de régime civilo-militaire, qui se sont toujours associés à ce pouvoir, puissent redorer le blason d'une manière ou d'une autre. Et c'est toujours très typique. Chaque fois que c'est comme ça, on veut devenir l'homme de la paix. On veut devenir l'agent intermédiaire qui a fait la transition, qui a ramené la paix. Ce qui permet d'ailleurs de faire ce que j'appelle le solde de tout compte, c'est-à-dire que du jour au lendemain, et c'est ce qui se négocie d'ailleurs actuellement, on va dire l'amnistie pour tout le monde. Quand je dis tout le monde, jusqu'à Blaise Compaoré. C'est d'abord la première chose qu'ils vont faire signer à toute opposition de ce pays, d'une manière ou d'une autre, de manière forcée, de manière par l'argent, de manière en les excluant. Toutes les méthodes seront possibles et utilisées pour arriver à ce résultat-là. Et je ne vous garantis que ça ne peut pas se faire sans un lien quasi direct avec l'ancienne puissance coloniale, sinon postcoloniale d'aujourd'hui.
Comment
on va m'arrêter là pour que le débat...
Merci Yves. Prononcez le mot impunité, cette espèce de carburant des fléaux africains. Vraiment, c'est ça. Même ils sont organisés pas longtemps à dire si on massacre, on ne peut pas nous accuser, on va créer notre CPI. Comme ça, on est tranquille, on ne va pas être, voilà. Makaïla, un mot avant qu'on, voilà.
Oui, justement, moi, j'adhère complètement à ce que disaient Koulibaly et Adama, Adama Koulibaly et Yves depuis Vienne. Effectivement, Koulibaly évoquait l'accumulation de frustrations. Le régime de Blaise Compaoré s'était illustré par une répression généralisée, par l'exécution extrajudiciaire d'opposants, par l'élimination physique des journalistes indépendants et une répression assez forte sur une société civile qui est organisée et forte, vous savez. Et aujourd'hui, il faut aussi saluer effectivement la présence des acteurs politiques burkinabés, tels que Ablaze Ouédraogo, qui a été à l'OMC, et puis d'autres gens qui sont sortis, qui ont fait défection dans les rangs des Blaise Compaoré pour animer la résistance burkinabé.
Mais tous les risques que cela
pour eux. Je vais aller dans le même sens que Koulibaly. Je veux poser une question pour vous. Comment se fait-il que malgré toutes ces prémices économiques, politiques, ça se voyait, mais lui, comment se fait-il qu'il, est-ce qu'il a compris ou alors il a fait semblant, est-ce qu'il s'est mis un voile devant les yeux ou alors le peuple ne l'a pas informé, le peuple, c'est-à-dire que son environnement ne l'a pas informé.
Écoutez, l'environnement certainement a vu venir la mobilisation citoyenne et républicaine dans ces pays-là.
Oui.
Mais bon, comme vous savez, on a l'obsession en Afrique, les régimes autoritaires ont l'obsession de conserver le pouvoir autant pour longtemps. Si vous voyez,
c'est même à vie. C'est parce que manque de peau pour eux, il y a la mort. Sinon, c'est à vie. Tout à fait.
Donc, Mathusalem. Comme disait Koulibaly, donc c'est une kleptomanie prédatrice qui a régné pendant 27 ans. En appauvrissant la population burkinabé. Et malgré tout cela, le peuple était debout. Le peuple a résisté, une société civile organisée, une opposition qui s'est structurée, une presse qui est indépendante, qui est debout. Et nous, effectivement,
nous pensons. Pas.
Et là, un autre facteur qui, moi, effectivement, m'interpelle et qui a été évoqué tout à l'heure par Yves, c'est effectivement la responsabilité des paris. On ne peut pas admettre que la France continue.
C'est-à-dire les parrains qui sont derrière.
Justement, les acteurs extérieurs. Et jusqu'à quand, après 54 ans d'indépendance, les Africains soient instrumentalisés, soient infantilisés. Aujourd'hui, les Burkinabés ont envoyé un signal fort, et aussi bien à nos dirigeants qui sont là depuis longtemps, mais également aux partenaires étrangers et aux partenaires internationaux. On ne peut pas continuer à piller l'Afrique aussi longtemps que ça.
Oui, je voulais peut-être répondre à la question d'Hortense à ma manière. Pardon, ma chère, c'est parce que les présidents africains sont au pouvoir ce que le pendu est à la corde, peut-être. Voilà. Avant d'ajouter un mot, Koulibaly, avant qu'on peut-être aille voir Lucien pour respirer. Hein. Voilà.
Sur la question de l'impunité, évidemment, le collectif que nous avons mis en place à l'issue de suite à l'assassinat crapuleux, odieux de Norbert Zongo et de ses camarades, s'appelait collectif contre l'impunité, justement. C'était le but, se battre contre l'impunité. Et il faut rappeler que Compaoré était tellement soutenu par l'ex-LUS, certes, mais également par d'autres dictateurs, il a réussi à créer des conflits ou à les alimenter dans la sous-région,
oui,
notamment
c'est,
pour ce qui concerne
un médiateur.
Oui, notamment, c'est un pyromane pompier.
Vraiment.
Un pyromane pompier.
Vraiment.
Parce que j'avais d'ailleurs, lorsque j'étais encore étudiant, j'avais pris des photos d'ailleurs d'une grande bâtisse qu'il était en train de construire pour son ami Taylor, qui n'était pas encore président. Ils ont fait beaucoup de trafic de diamants et surtout ils ont été les responsables de la mort de dizaines de milliers de personnes au Libéria, en Sierra Leone et en Côte d'Ivoire. Et même plus loin en Angola, puisqu'il avait des accointances avec
Savimbi.
Voilà, Savimbi. Oui. Donc, c'est un pyromane pompier qui s'est rendu indispensable aux yeux des Occidentaux, qui, eux, le soutenaient, non pas parce que, justement, il était médiateur, mais parce que sa place permettait de faire aussi des affaires. Des affaires pour beaucoup de gens.
Il assurait des intérêts. Il le soutenait pour leurs intérêts, comme
mais pour leurs intérêts. Mais également aussi, en jouant à l'apprenti sorcier, on arrive à sortir des diables de leur boîte qui inquiètent aussi les intérêts, davantage les intérêts occidentaux. Avec ce qui se passe un peu partout ailleurs, ils étaient obligés aussi d'essayer d'éteindre le feu. Donc, ils devenaient indispensables. C'était un véritable pyromane pompier qui devait répondre des crimes au Burkina et des crimes également dans l'ensemble de la sous-région. C'est beaucoup de fils d'Afrique qui ont été assassinés par les comportements scandaleux et inacceptables de cette bande. Et il faudrait aller plus loin jusqu'aux complices extérieurs.
Oui.
C'est tout le temps, tu nous pourris le temps, pas le moins de changement, tu nous pourris le temps, pas de boulot, pas de job, tu nous pourris le temps, l'avenir tout le temps, tu nous pourris le temps, une seconde de trop, une minute de trop, un cadavre de plus, un cadavre de trop, le mandat de plus, c'est le mandat de trop. On a marre, on dit qu'on a marre, on vit dans ce reste, on dit qu'on a marre, on a faim, pas de pain, on dit qu'on a marre, tout le peuple, tous les gosses, tous les mecs, on a marre. Voilà la porte, et sort dans le calme, pas de balle, pas de sang, tu sors dans le calme, yo, voilà la porte, et sort dans le calme, t'es qu'à la vanille, et sort dans le calme.
Forum africain sur FPP 106.3 FM. On va peut-être essayer de voir les événements. On est arrivé dont l'explosion a eu lieu. On va demander à Yves depuis Vienne. C'est comment il de loin, comment, parce que il connaît malheureusement la situation de nos pays, pas seulement économique, parce que c'est son domaine de compétences supérieures. Comment il a regardé ça et est-ce que dans les événements il y a déjà non seulement on a essayé de voir là d'où ça venait, on voit déjà
où ça peut conduire les gens, et même les acteurs en ce moment, ils doivent connaître probablement quelques hommes et femmes dans ce qui va être bientôt la période transitoire. À toi, Yves.
Bon, la première chose que je souhaiterais quand même qu'on précise, parce qu'il y a un flou assez important dessus, c'est qu'il y a eu l'insurrection populaire. Cette insurrection, comme l'a rappelé Adama Kouliabi plusieurs fois, ce n'est pas d'aujourd'hui, ça a toujours existé, pas même uniquement au sein de la société civile, mais même au sein des militaires. Donc il y a bien eu insurrection populaire, et c'est spontané. Donc c'est un ras-le-bol qui s'exprime. Et il faut voir...
Une question, docteur Yves, docteur Maïso, excusez-moi de vous couper, je vais vous... Pourquoi à cette heure H, il y a cette insurrection populaire? À cette heure H-là, pourquoi?
Mais l'insurrection populaire, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord le fait qu'un peuple n'est pas écouté. Tout simplement. C'est qu'il n'y a pas de vérité des urnes. C'est-à-dire quand on va faire l'élection, ce qui sort des urnes n'est pas le reflet de ce que souhaite un peuple.
C'est une opération blanche.
De là, une colère se met en place. À cela, vous rajoutez que le peuple, lui, il considère que sa vie ne s'est pas améliorée, son pouvoir d'achat ne s'est pas amélioré, la pauvreté n'a fait soit stagner, sinon s'agrandir, et pire, voir en face un groupe relativement limité s'enrichir dans des proportions inacceptables. Donc, face à toutes ces inégalités quasiment institutionnalisées, cette colère ne pouvait pas ne pas exploser.
D'ailleurs, et surtout qu'il avait envie de remanier la Constitution, surtout aussi.
Attendez, la Constitution est un autre élément, c'est les éléments juridiques. Ressent sur le peuple. Ce peuple, à ce moment-là, je lui dis, il faut se réjouir que ça ne s'est pas, ça n'a pas évolué en des bandes armées, disons, style Boko Haram ou autre, dans ce pays. Ne croyez pas que c'est une chance inouïe, parce que ça aurait pu évoluer vers le terrorisme, tout simplement. Donc ça, c'est le premier élément. La Constitution, c'est quelque chose de juridique. Donc, tout le monde veut s'y attacher. Moi, je ne m'y attache pas, parce que ça ne dépend que de celui qui veut bien l'avoir écrit. Surtout qu'elle est principalement inspirée de celle de 58 de la France. Donc, il faut revoir cette Constitution complètement par rapport à ce que souhaite un peuple. Et ce n'est pas du tout le cas. C'est ce qui explique d'ailleurs que cette insurrection populaire, donc je vais continuer ma deuxième partie de l'élément, est devenue un coup d'État. C'est-à-dire, ce sont des militaires cachés derrière des civils qui sont évolués. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le premier militaire, on l'a rapidement enlevé parce qu'il faisait pas le poids et qu'il ne correspondait pas, en fait, à ce que souhaite la puissance externe.
Honoré Traoré.
Donc, on est venu au deuxième. Est-ce que le deuxième est meilleur? Ben, certainement, parce qu'il va pouvoir organiser l'amnestie de manière générale pour tout le monde, y compris lui-même, et en même temps se dorer le blason. Ce que certains appellent très très souvent des gens qui arrivent à sortir du lot et à se donner une fonction de caméléon extraordinaire. Maintenant, est-ce que le peuple va trouver satisfaction dans cela? Certainement pas. C'est pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On choisit, dans cette forme de transition qui est en train de se construire, une personnalité sur laquelle tout le monde doit donner son avis. Mais écoutez, quand tout le monde doit donner son avis, y compris ceux-là même qui étaient au pouvoir et qui ont amené la situation, ça veut dire que quand on va choisir un individu, vous aurez quelqu'un qui dit non. Et au non, on va donc pouvoir éliminer l'ensemble des acteurs qui soit étaient dans l'alternative depuis longtemps, notamment ceux qui suivaient Sankara ou d'autres, soit même les opposants d'aujourd'hui, entre guillemets, même ceux qui ont quitté le parti même de Blaise Compaoré pour se retrouver dans l'opposition, pour sortir quelque part une personnalité soit inconnue, soit ce que fait souvent l'Afrique, une personne très âgée, dite de sagesse, etc., mais manipulable. Et à partir de ce moment-là, vous voyez qu'on est en train de détricoter cette insurrection populaire, ce qui veut dire qu'on est en train de préparer la prochaine crise, parce qu'il y aura des insatisfaits. Mais comment bloque-t-on cela? Mais par le militaire, par la force. Et donc, c'est pas étonnant que Adama Koulibaly nous disait que, bien sûr, qui a pu émerger? Pourquoi le lieutenant-colonel Zida émerge? Mais parce que c'est lui qui détient, en fait, cette force militaire, cette force de nuisance, en fait. C'est-à-dire que ces forces ne sont jamais utilisées au service des populations pour faire en sorte que ça marche. Alors, sachant que cette insurrection peut mettre en cause, et là on tombe sur l'élément économique, les intérêts français ou autres dans le pays, y compris les bases militaires, parce qu'il faut qu'on y vienne à ce sujet.
C'est
le fond de tout ce problème qui permet de contrôler et les matières premières, mais tout l'environnement, et qui quelque part crée ces bandes que vous voyez de terroristes ici et là, depuis le Mali en passant par le Nigeria. Alors oui, on peut se poser la question fondamentalement, qu'est-ce qui est en train de se passer, d'autant plus que l'opposition brille quelque part aussi par son manque d'unité. Parce
absolument.
Que cette opposition unie aurait pu dire que je prends cette transition en main en imposant une personnalité. Ça n'a pas été le cas. D'après nos informations, beaucoup d'entre eux ont discuté en douce avec ces régimes militaires, tentant ici et là de placer leur candidat ou leur pion, voire d'influencer le processus de manière à ce que, après la transition, tel ou tel puisse émerger. Donc une trahison qui ne dirait pas son nom de cette opposition, il faut aussi regarder de ce côté-là. Tout n'est pas du côté d'extérieur ni du côté français. Il y a des éléments profonds africains de trahison au nom de ce peuple. C'est-à-dire que je mets en cause un certain nombre de ces gens de l'opposition, quelle que soit leur qualité personnelle, etc., de ne pas vouloir, au fond, de manière unitaire, prendre en compte ce que demande ce peuple burkinabé. C'est ça le fond du problème. Il y a un problème fondamental de ces dirigeants africains au pouvoir, comme dans l'opposition, à s'organiser pour ne pas écouter les peuples. Par contre, ils sont des spécialistes à récupérer ce que le peuple souhaite, d'où des éléments de distorsion systématique qui souvent deviennent violents. Et à ce moment-là, l'extérieur, avec les moyens financiers, avec les moyens en armes, finit par choisir ce qui permet de sortir, ce qui les intéresse eux de cette histoire-là, c'est-à-dire qu'ils ne perdent pas l'ensemble des intérêts économiques, voire militaires dans la sous-région, que le système continue comme avant, sauf qu'on change les individus, et on met au mieux des gens manipulables, auquel cas, les choses vont continuer, s'améliorant légèrement.
Changer pour que rien ne change, en réalité, au fond.
Quelque part, c'est ça.
Voilà. Avant de passer la parole à Koulibaly, je voulais seulement dire, il va parler tout à l'heure, on a évoqué la Constitution. Je voulais, c'est vrai, bon, il n'a pas de temps, et puis c'est vrai, il dit, bon, pour lui, c'est pas un problème. En fait, le problème n'est pas tellement la Constitution. Vous faites la meilleure Constitution du monde, vous donnez à quelqu'un qui est crétin, voleur ou incompétent, hélas, on va se retrouver au même problème. C'est un problème de conscience politique ou de compétence politique ou de patriotisme. On a dit que mon pays va fonctionner de cette manière. Je respecte scrupuleusement ce qui est marqué parce que c'est mon honneur et l'honneur de mon pays et de mon peuple. Si on n'a pas de gens capables de raisonner comme ça, hélas, on...
Mais c'est ça qui aura été à l'origine de sa perte définitive. Parce que, en voulant trop gagner, comme on dit, il a fini par perdre. Absolument. Il avait encore un an et quelques mois d'années au pouf. Enfin, son mandat s'achevait en 2015.
C'est le
malheureusement, il a voulu tellement aller plus loin que finalement, c'est une année, là, il les a complètement perdus.
C'est le propre des idiots.
Voilà. voilà. Alors, je remercie beaucoup le docteur, mon frère. J'aurais pu croire qu'il a lu l'article que un article que j'ai publié hier. Et je l'invite d'ailleurs, à lire.
Et les autres aussi.
Et les autres aussi. Et que j'ai intitulé parce que son analyse rejoint parfaitement ce que j'essaie de décrire dans cet écrit qui est strictement personnel, qui n'engage pas les organisations dans lesquelles je suis.
Absolument.
Ou, et que je
j'en appelle. Personnelle.
J'en appelle justement. Ben, ça, c'est, je suis pas là pour parler de moi, mais je l'invite à lire ça où je pense qu'il faut qu'on soit vigilant. Et pour ne pas nous faire confisquer notre démocratie, c'est à nous d'inventer nos instruments, nos outils pour exercer la démocratie que nous souhaitons, que nous appelons de nos voeux, que nous appelons du sang de nos frères, de nos héros qui sont tombés sur le champ de bataille de la liberté. Et c'est cela qu'il faut, mais pour cela, il faut une réflexion authentiquement africaine des peuples africains. Voilà. Maintenant, sur la question de...
des acteurs, la manière dont les choses tournent.
Alors, il faut dire que il y a une convergence, une prise de conscience de l'ensemble de la population. Je vais vous dire d'ailleurs qu'il y a eu des artistes engagés qui ont qui ont composé.
Le mouvement Ballet Citoyen.
Oui, bon, il y a le Ballet Citoyen, bien sûr. Il y a beaucoup d'artistes qui ont chanté le départ de Blaise Compaoré, qui ont chanté la dénonciation de la mainmise extérieure sur nos pays. Et qui était très impliqué dans ce mouvement révolutionnaire au Burkina et qui ont pris des gros risques. Il faut dire aussi que même au sein du mouvement de Compaoré, au sein de son parti, certains ont été mis à l'écart et qui se sont révoltés contre, qui ont même provoqué une scission au sein de son parti.
Salut,
oui, bien sûr. Bon, bien sûr, il y en a eu plusieurs qui sont partis. Il y a certains qui sont aussi dans l'opposition, y compris d'ailleurs le chef de l'opposition politique aujourd'hui, enfin, pas les chefs d'opposition, les chefs de file, c'est pas la même chose que le chef de l'opposition. Mmh. Chef de file, ça c'est encore une invention de Compaoré, hein. Mmh. Alors, donc, pour vous dire que tout, il y en a beaucoup qui ont gouverné avec lui, mais qui ont exigé l'alternance, alors que le peuple voulait un vrai changement, pas seulement une alternance, pas seulement un changement d'homme.
Un bouleversement.
Pour parler, voilà, pour parler, pas seulement un bouleversement, mais un vrai changement. Pas, parce que ce n'est pas de gaieté de cœur que les gens sont allés devant les balles. Donc, on voulait vraiment un changement de vie.
Profond.
Un changement profond, et ça peut venir aussi, pas nécessairement par la violence, pas par la mort nécessairement, malheureusement, passer par là. Donc, il est important d'ailleurs que nous puissions, le jour venu, dans toute l'Afrique d'ailleurs, rendre vraiment, vraiment hommage à ceux qui sont battus pour la liberté, ceux qui, les grands noms comme les plus humbles, pour que jamais nous puissions les oublier et qu'il y ait des stèles, des journées, des souvenirs pour nous rappeler, pour qu'on se rappelle que personne n'oublie que c'est à ce prix-là qu'on gagne sa liberté, comme les autres l'ont fait, les Américains, les Français et partout ailleurs. Et comme nous nous sommes battus aussi contre l'esclavage, nous sommes battus, nous avons souffert. Nous continuons de souffrir, mais nous continuons de nous battre. Faut pas que les gens disent qu'on est soumis. On n'est jamais soumis. Mais cette bataille, une fois que...
On n'a jamais accepté la soumission.
Mais bien sûr, pour en revenir justement à cette question, pour essayer de répondre à la question, pourquoi ce moment-là? Il faut dire que Compaoré, quand même, il avait, sur le plan législatif, sur le plan juridique, par rapport à cette constitution que lui-même prétendait vouloir respecter, il lui restait... À moins d'un an avant les élections, il ne pouvait plus modifier. Donc il fallait qu'il aille vite au dernier moment. Il avait d'abord essayé de mettre en place un Sénat pensant que son frère serait certainement à la direction de ce Sénat, à la tête de ce Sénat, et que lui, s'il était empêché d'une manière ou d'une autre, son frère prendrait les rênes du pouvoir. Ils en avaient discuté d'ailleurs dans le clan familial pour dire que puisque lui, il était malade, il était affaibli, si jamais il était obligé donc de passer la main, ça serait son frère qui prendrait les relais. Donc il voulait instaurer une monarchie qui n'a pas échappé à la vigilance populaire. Il a voulu faire vite. Aller à un référendum que nous ne voulions pas. D'abord, il a dû reculer sur la question du Sénat.
Ah, oui.
Pour ce qui concerne les référendums, et il s'est dit, ce n'est pas gagné d'avance. Son entourage proche, donc ses turiféraires, lui disait, Monsieur le Président, vous êtes populaire dans les provinces, ne vous en faites pas. Les excités qui sont des aigris, eh bien, c'est vous qui les avez faits, comme si c'est lui qui nous avait tous donné la vie. Eh bien, il ne pouvait rien faire. Bref, toujours est-il que, il a voulu aller vite. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a promis, il a fait des promesses au parti ADF, RDA, qui, comme je le rappelle, était un des plus vieux partis africains, et de l'Ouest en tout cas, de la période juste avant les indépendances, et pendant les indépendances d'ailleurs, et c'était le parti de Fouad Boigny, soit dit en passant, et ces gens, ce parti qui avait 18 députés, s'est joint au projet funeste de Blaise Compaoré, ce qui lui permettait...
Est-ce que c'était pas un parti satellite?
Mais bien entendu, c'est devenu un parti satellite. Il y en avait beaucoup. D'ailleurs, ils ont créé ce qu'ils ont appelé le Front républicain, qui revendiquait une quarantaine de partis. Bon, bref, tu veux-t-il qu'il y a eu des manœuvres en tout genre pour faire passer en force
son projet.
Et ce n'était pas acceptable. C'est-à-dire qu'avec les 18 voix, les 18 députés de l'ADF-RDA, ils voulaient passer en force. Point barre. Il s'est dit, à chaque fois qu'il y a des soulèvements dans ce pays, j'ai éliminé mon frère Sankara. J'ai éliminé même deux autres compagnons d'armes. Il ne s'est rien passé. J'ai tué Norbert Zongo. Il ne s'est rien passé. Je suis toujours là. Il disait en aparté.
Il y a juste eu de l'agitation.
Il disait en aparté. De toutes les façons, dans d'autres pays aussi, il y a eu pire que ça. Ça n'a rien fait. Les gens oublient le travail que je fais. Mais il travaillait pour qui? Pas pour le peuple burkinabé. Donc, là-dessus, il était évident que sauf à avoir drogué toute la population, il n'était pas possible que cela passe de cette manière. Et avec ce jeune qui était mobilisé comme jamais auparavant, qui était solidaire, avec cette organisation, des organisations syndicales, des organisations de la société civile, des mouvements des droits de l'homme, des femmes, de toutes les couches de la population, des militaires qui étaient en colère. Non pas parce que, même certains officiers qui étaient en colère aussi, parce que eux aussi, depuis les événements de 2011, qu'est-ce que Compaoré l'a fait? Il a mis aux arrêts quelques-uns. Il y en a beaucoup
d'autres. Parce qu'il y a eu des soubresauts jusque dans la garde présidentielle.
Mais bien entendu. Il y a eu des tirs à la garde présidentielle en 2011, à la présidence. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il était devenu lui-même président et ministre de la Défense.
Oui.
Et donc, il a fait en sorte de désarmer l'ensemble des autres unités, sauf l'unité présidentielle, qui est, je le répète, une anomalie républicaine. Donc, il n'y avait pas de démocratie au Burkina. Quant au fond, c'est de cela qu'il s'agit. Sinon, comment une unité spécialisée, une unité de commando, les mieux formés, les mieux équipés, peut être chargé de la défense d'un individu plutôt que de défendre le pays.
Oui. Pour montrer que vraiment cet homme Compaoré avait un plan vraiment personnel, familial, je rappelle, enfin c'est peut-être, on est quelques-uns à savoir, personnellement je pose la question à Mariam, la veuve, au moins plus d'une fois Sankara lui avait proposé, Blaise, il n'y a pas de problème si tu veux, je reviens à l'état-major. Et c'est vous qui m'avez choisi d'être porte-parole. Même président, c'est nous qui... Enfin, c'est l'opinion qui a ajouté président. Il était porte-parole, en fait. Et je crois qu'il a refusé parce que... il voulait absolument, vraiment, des cartes, éliminer tout le monde et être donc Dieu Burkinabé. Voilà. Et il voulait y continuer donc une stratégie vraiment personnelle. C'est ça qu'il a... Comme a dit tout à l'heure Hortense, c'est là que peut-être... Il a perdu, il était devenu aveugle. Vraiment, rien ne pouvait l'arrêter.
Il faut pouvoir, parce qu'au mois d'août, avec la manifestation, près d'un million de personnes dans la rue. Enfin, c'est la question que je me pose à ce moment, je vous la repose. Comment se fait-il ? Est-ce que son entourage ne lui a pas dit ce qui s'est réellement passé ? Ou alors, ils se sont tous voilés les yeux parce que.
Alors, je vais vous dire.
Il y avait des prémices, trop de prémices d'ailleurs.
Bien entendu, mais Compaoré était dans une bulle. Ça, c'est le propre de la plupart des dictateurs féroces.
Ouais, absolument.
Il est sûr que, en dehors de lui, il n'y a personne d'autre ne peut diriger le Burkina. Comme si lui-même n'était pas arrivé par hasard à la faveur d'un coup d'État. Et ensuite, il avait des soutiens extérieurs. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, il avait des soutiens extérieurs. Tantôt, on lui adresse un courrier pour dire, eh bien, vous devrez pouvoir partir, des discours. Alors, lorsque le président Barack Obama lui dit... pas qu'à lui d'ailleurs, l'Afrique a besoin d'institutions fortes et pas d'hommes forts, lui il rétorque, lui il soutient la thèse inverse en disant non, il faut des hommes forts.
Comme
ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il est encore avec cette mentalité depuis le temps de l'esclavage où on considérait qu'on était des biens meubles, donc des moins criens, et que lui avait dépassé ça, lui seul. Donc quelle est la différence avec une telle vision des choses, avec ce que le président Sarkozy disait? Ce qui a repris ce que Hegel disait à la fin du 19e siècle, ce que au 20e siècle Chirac disait, l'Afrique n'est pas mûre pour la démocratie, et ce que au 21e siècle Sarkozy dit, on n'est pas rentré dans l'histoire. Et Compaoré était sur la même ligne lorsqu'il dit, je suis ceux ou qu'il pense ou qu'il se comporte de sorte à penser, à nous faire comprendre qu'il est le seul à pouvoir diriger ce pays et que les autres c'est de la merde.
Terrible de savoir qu'un Africain s'est plus mal comporté qu'un non-Africain vis-à-vis de l'Afrique et des Africains. Makela,
vous savez, justement, vous savez, le tableau décrit ici par Koulibaly montre effectivement que c'est les mêmes syndromes, hein, que ce soit au Tchad où l'armée est utilisée pour réprimer, pour garder les pouvoirs. On a les mêmes critères, la gestion familiale du pouvoir, c'est l'ethnie, c'est les amis. Et donc, face à cela, c'est ce qu'on appelle « nul ne peut transgresser la volonté populaire ». La démocratie triomphera. Et ce qui s'est passé, effectivement, au Burkina, où des scénarios ont été montés, scénarios à Abdelawad, qui voulait, effectivement, donner le pouvoir
à son fils, en demandant d'être
À son fils,
le mandat.
Sénégalais s'est soulevé. Et on constate également qu'au Burkina, la mobilisation a été si forte face à un Blaise Compaoré ivré par qui est complètement dans une logique de garder pour longtemps le pouvoir, non seulement cela, mais qui refusait effectivement le dialogue, qui refusait également d'écouter sa population. C'est ça la réalité.
Le pouvoir est en chassé.
Et moi, je rebondis à ce que disait Koulibaly, c'est qu'il doit être poursuivi, Blaise Compaoré, poursuivi pour délit économique, poursuivi pour crime contre l'humanité et poursuivi pour disparition d'opposants dans sa pays. Donc, je pense que il est temps que l'Afrique opère sa rupture, la rupture aussi avec l'extérieur. Parce que si on constate que dans la gestion de nos régimes, de nos pays, il y a des mains invisibles qui effectivement nous maintiennent des gens de pouvoir à vie, qui conservent leur pouvoir au détriment de la population, au détriment de la volonté populaire, je pense qu'il faut que nous essayons de mettre terme à cela pour que franchement l'Afrique connaisse un essor économique, pour que les populations africaines aspirent à des besoins économiques les plus élémentaires. C'est Or, ça. On a remarqué depuis après 40 ans d'indépendance.
Bien. 60
ans, c'est que les Africains restent toujours des mendiants, nous restons toujours des gens qui sont affamés et je pense que c'est triste.
Avant de retourner à Vienne, pour que Yves peut-être nous dise un mot sur la sous-région risque en termes d'impact ou économique, okay. Puisque c'est vraiment c'est sa compétence, dire seulement que, ne serait-ce que pour la mort de Sankara, je crois que peut-être quelque part, c'est pas une excuse. Peut-être il pouvait dire, mais si je quitte le pouvoir, je suis fini. Il le savait. En espérant qu'il va quand même finir sans avoir vouloir quitter le pouvoir. Yves, on revient à Vienne. Maintenant que la chose est faite, peut-être en souhaitant la contagion, on demande toujours pourquoi ça ne se fait pas. Bon, il faut pas désespérer. Pardon, Yves, pour nous dire.
Alors, merci encore pour cette question qui va élargir à la sous-région. Mais avant cela, il y a deux éléments que je voudrais rappeler rapidement.
L'aveuglement. Bien sûr, c'est le débat.
L'aveuglement dont on a parlé, je soutiens tout ce qui a été dit, hein, mais il n'est pas si personnel que cela. Il semble qu'on met l'accent beaucoup sur l'individu lui-même, ce qui est totalement vrai. D'ailleurs, vous savez, tous les autocrates ont plus ou moins le même psycho stratégie. En termes d'organisation. Mais ce psycho vient aussi du fait qu'ils reçoivent des soutiens extérieurs. Et j'insiste beaucoup dessus, parce que il se passe des phénomènes contradictoires. Voilà qu'on met en place une cour pénale internationale qui, en gros, et là je viens sur votre sujet, empêche les chefs d'État de partir. Voilà qu'un certain Mo Ibrahim, un Soudanais, qui d'ailleurs n'est jamais en Afrique en termes de positionnement, milliardaire, dit « Je vous donne 5 millions si vous quittez le pouvoir, dans de bonnes conditions, et d'autres 5 millions pour faire des projets, c'est fait 10 millions. » Sauf que ce monsieur Mo Ibrahim, que tout le monde doit connaître maintenant, qui a mis en place des gouvernances, des indicateurs de gouvernance et autres, oublie que les 10 millions qu'il propose ne sont rien en pourcentage par rapport aux millions qui sont pris.
Absolument.
Sous toutes les formes
aux milliards.
De ces autocrates.
Absolument.
Et donc chacun rit.
C'est pour ça que ça n'a pas de succès.
Ce Mo Ibrahim. Alors, c'est très important pour comprendre comment fonctionne justement ce chef d'État-là. Et donc, il faut qu'on quitte un peu les points qu'on a évoqués maintenant pour rentrer, paradoxalement, dans les sociétés secrètes. Blaise Compaoré était à la tête des groupes francs-maçons, sans aller dans le détail, ésotériques. Et dans ce groupe-là, ce sont des frères. Donc on se soutient mutuellement. C'est-à-dire, c'est très important. S'il y a un crime, c'est l'impunité. Faut se le dire. Et cette impunité, si vous maintenant le mettez au niveau sous-régional pour arriver à votre question, vous comprenez que tout membre, direct ou indirect, à la tête ou pas de telle ou telle loge de ces structures ésotériques, il n'y a pas que celle-ci, hein. J'ai cité la franc-maçonnerie, mais il y en a plein d'autres. Il y en a même africaines.
La Rose-Croix.
Et par des pactes qui vont très loin, fait que, par définition, on doit donc le soutenir. Mmh. Et ce n'est pas lui en tant qu'individu,
protéger.
Mais l'ensemble de son groupe, dont les militaires. Mmh. C'est-à-dire, non seulement on organise son explication, François Hollande s'est quand même vanté de l'avoir fait. On se peut poser la question pourquoi. Est-ce que c'est pas un message pour les autres chefs d'État? Si vous acceptez gentiment de partir aux prochaines élections, moi je m'occupe que vous soyez toujours vivant et que vous mangez bien quelque part en Afrique. Voilà un premier message qui a peut-être été envoyé, mais qui, malgré tout, dans certains pays, mal entendu. De quel droit vient-il nous dire de partir si on peut encore rester? Donc on revient à l'aveuglement, il y a des gens qui ne veulent pas partir. Et ils sont suffisamment forts, outillés, presque indépendants, parce qu'ils ne dépendent plus uniquement de la France.
Non.
Ils ont d'autres réseaux chinois, d'autres réseaux, les mercenaires d'Afrique du Sud, d'autres réseaux indirects, Russie ou d'autres, on ne va pas les citer tous ici, qui fait qu'ils se croient donc invulnérables. Donc on revient à l'aveuglement, qui fait que ces gens ne veulent pas quitter ce pouvoir-là. Malheureusement pour eux, c'est qu'il y a des tensions internes au sein de leur propre soi-disant armée. En fait, ils ne gouvernent pas les pays. Ils sont seulement des gens qui passent à faire de l'équilibrisme entre des forces militaires, parfois éthiques, parce qu'il y a quand même des républicains dans nos militaires africains, mais souvent, ce sont des grands voleurs de grands chemins qui ne cherchent qu'à manger. Il faut se le dire la vérité. C'est-à-dire que cet argent facile en économie est devenu le moteur de gens qui ne comprennent rien à la création de richesses en économie. Et donc, c'est des cours d'économie qu'il faut à nos militaires africains. Parce que tant qu'ils n'ont pas compris ça, ils ne pourront jamais mettre en cause le fait que c'est le trésor français qui décide du franc CFA qui aurait dû disparaître depuis qu'on est dans l'euro. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi nous payons par Western Union ou d'autres jusqu'à 30% alors que nous faisons un transfert dans la même zone économique qui est l'euro, même si vous appelez ça encore le franc CFA, alors que ça aurait dû être l'euro CFA. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi quand la diaspora envoie de l'argent, cet argent part toujours dans la consommation et non pas dans l'investissement. À cause essentiellement de l'échec de ces pays, de ces dirigeants qui sont incapables de sortir les gens de la pauvreté. Et plus grave, qui ont écouté Kofi Annan qui nous dit qu'il va nous sortir de l'extrême pauvreté. Et je vous dis que Blaise Compaoré l'a appliqué à la lettre parce que quand je regarde les statistiques depuis plus de 30 ans, oui. Ce pays n'a pas réussi à sortir au-delà de l'extrême pauvreté, c'est-à-dire qu'on a maintenu le Burkina Faso dans la pauvreté. Pouf. Donc, ce type de gouvernance économique, il est inacceptable. Et compte tenu de la diaspora qui rentre, des gens de plus en plus intelligents qui dirigent les partis politiques, c'est inacceptable. Plus de 50% de jeunes qui sont dans ce pays Burkina Faso ne peuvent plus accepter que demain, on les empêche d'aller s'expatrier en France ou ailleurs, qu'on ne puisse pas leur donner du travail chez eux, et qu'on voit maintenant ces différentes capacités de création de richesse être prises, appropriées par des gens qui soit n'y connaissent rien, soit continuent à les empêcher, eux, de pouvoir en profiter. Tout ça explique cette insurrection-là. Et bien sûr, pour finir sur qu'est-ce qui va se passer ou pourrait se passer dans la zone...
Pourrait, oui, oui.
Oui, le Bénin, le Togo... même la Côte d'Ivoire, faut pas l'oublier. Allons plus loin, le Cameroun, Biya, le Congo,
le Tchad,
le Tchad bien sûr, tous ces pays, comme par hasard, tous francophones, comme par hasard pour l'essentiel, ont leur monnaie à part le Kinshasa dépendant du franc CFA, donc du Trésor français. J'insiste bien, c'est pas la Banque de France, hein, c'est le Trésor français, c'est
absolument.
Le
ministère qui gère
la finance. Donc ces gens qui placent leurs richesses là-bas, utilisées par la France de telle ou telle manière, comment voulez-vous modifier un tel système du jour au lendemain? Alors, en disant, comment fait-on rapidement, avant que les insurrections ne deviennent des explosions, voire du terrorisme, comment fait-on rapidement, comme on a fait dans les années 60, pour calmer le jeu? Donc, on donne l'indépendance juridique dans les années 60. Aujourd'hui, rapidement, on essaie d'organiser une fin de non-recevoir à l'impunité, c'est-à-dire que personne ne sera condamné, et en même temps, on regarde parmi les opposants qui sont les plus turbulents, on les dit, écoutez, calmez-vous, certains en prendront l'argent, d'autres on leur dira, vous aurez les postes un peu plus tard, et on calme tout le monde dans une sorte de palabre africaine et de salade niçoise mélangée qui va donner quelque chose d'assez extraordinaire, sur lequel je pense qu'il y aura une nouvelle crise, parce que on ne peut pas ne pas accepter la notion d'alternance en Afrique. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On ne veut pas d'alternance au Burkina Faso. On veut des individus qui vont calmer le jeu, organiser. Et en plus, comme l'opposition ne veut pas parler à la presse de tout ce qu'ils vont discuter à gauche et à droite, ce qui signifie que cette opposition n'arrive même pas à dire la vérité, en fait, à son peuple, elle-même se met dans une situation où le peuple va commencer à douter de ces oppositions-là. Et c'est là le cas qu'il y a au Togo, c'est le cas qu'il y a au Bénin. Et ils n'ont pas oublié tous, soit de changer la constitution, soit d'espérer des élections à un tour, soit d'organiser. D'ailleurs, votre référendum au Burkina Faso avait un gros problème. C'est que, d'après les informations, les bulletins des urnes qui devaient arriver étaient quasiment tous des oui. Il n'y avait pas de non. C'est ça qui a un peu filtré.
Des urnes bourrées à la base.
Résultat de l'insurrection, d'ailleurs, en parenthèse. Oui, et le Togo qui est spécialiste justement de la contre-vérité des urnes est en train de préparer pour le mois de mars quasiment la même chose. Alors pourquoi ces pays qui soutiennent, qui sont conscients de cela, qui savent tout cela, qui refusent que les forces vives qui sont dans la diaspora puissent s'installer dans les pays d'accueil et les empêchent de rentrer pour avoir des pouvoirs, pourquoi accepter ce système? Et c'est là la vraie question. Et donc, vu le changement qu'il y a eu en France, ce n'est plus la droite qui était là depuis une vingtaine, trentaine d'années, qui avait soutenu vraiment les yeux fermés tout ceci. La gauche de Hollande, elle est un peu différente. Bon, humaniste, on peut en discuter, mais quelque part, c'est quand même de cela qu'il s'agit.
Ça ne l'a pas empêché d'exfiltrer le président Compaoré. Hein.
Attendez, il ne veut pas perdre leurs intérêts, et je finis là-dessus. C'est qu'il y a eu une transfusion du côté du pouvoir, entre guillemets, public, donc l'État, vers un sort de pouvoir privé. Quand vous allez voir le centre de conseil d'investissement du Burkina Faso, vous serez étonné de voir à la tête et les directions des gens comme Bolloré, des gens comme Lauvergeon, des gens comme ça.
Comme Bouygues ou Bouygues.
Français. On les empêche pas de venir conseiller, hein. Mais c'est qui pose le problème de fond? Où sont-ils, ces Africains du secteur privé qui vont dynamiser ce pays? C'est ça le fond du problème.
Merci.
Donc, il faut bien prendre en considération, en dehors de ce problème ministère, de la Constitution, etc., comment le système économique va s'organiser pour que les intérêts de là-bas ne se perdent pas, parce qu'on est dans un monde compétitif. Hein. Les Chinois sont là, les pays émergents de manière
générale
sont en train d'arriver. Hein. On va falloir trouver des gens qui vont, entre guillemets, ralentir cela. Si vous ne le voulez pas, c'était le cas de Gbagbo de manière relativement claire, on vous saute, hein, on vous enlève. Donc il faut prendre ça en considération. C'est facile d'annoncer des choses. Il faut aussi voir maintenant le rapport de fond qui va permettre d'identifier des acteurs, des individus qui soient capables d'abord de tenir cette position que le peuple demande, pour que l'essentiel de la richesse retourne au peuple et non pas sorte du pays pour des intérêts autres que ceux du Burkina.
Merci Yves. Il faudra un jour savoir si ce sont les autres qui sont très forts ou c'est nous, Africains, qui sommes très faibles, incapables de décider et de nous prendre en main. Oui, il faudra un jour. C'est un débat vraiment sur lequel il faudra revenir. Pardon, Koulibaly, est-ce que le Burkina Faso peut profiter de l'occasion? Parce qu'Yves était déjà dans la France-Afrique, là, même s'il n'a pas prononcé le mot, je prononce ce qu'il vient de dire, et déjà dedans, là, c'est cette espèce de, j'allais dire, de cordon en fer incoupable, c'est-à-dire définitive, que nous sommes incapables, mais il faut attendre l'autre de couper. C'est à nous, puisque ça nous désavantage de couper. Est-ce que le Burkina peut profiter de l'occasion pour le faire? Ou, comme a dit Yves, on va faire comme on a fait en 60. Comme disait Mesmer, on va donner l'indépendance à ceux qui ne demandaient surtout rien. Et ceux qui s'excitaient à demander, on les élimine. Comme ça, on est sûr de garder l'Afrique avec nos amis.
Alors, il faut dire d'abord sur ce que vient de dire notre frère. Je pense que les réseaux, il a parlé des francs-maçonneries, par exemple.
C'est ça.
Alors, il faut dire que Comparé était plutôt, il y a plusieurs types de franc-maçonnerie. Parce que je crois me souvenir d'un article que je devrais pouvoir retrouver. Il disait que Blaise Compaoré, après l'assassinat de Sankara, avait demandé son affiliation à une loge maçonnique qui a refusé parce que c'était un assassin. Il y en a une autre qui l'aurait accepté, mais à la différence de Bongo ou de Sassou Nguesso, Compaoré n'a jamais réussi à être le chef de la franc-maçonnerie au Burkina, que je sache, dans tous les écrits qui paraissent là-dessus, c'est un autre de ses alliés, plutôt que lui-même, d'après ce qu'on dit. Peu importe, je ne pense pas que ce soit cela. Je pense que c'est plutôt les intérêts financiers, militaires, stratégiques, économiques, qui expliquent que Compaoré ait pu rester aussi longtemps. Il est soutenu par des spécialistes. Et quand on voit que, quand notre ami dit que c'est différent avec Hollande, quand on voit qu'en 2011, et là le canard vient de le rappeler d'ailleurs, le canard cette semaine, à Ouagadougou en 2011, c'est que l'on disait, le Burkina peut compter sur moi dans sa volonté de redorer son image à l'étranger. On ne peut pas faire mieux que ça pour soutenir un régime. Oui. Ensuite, en 2013, Elisabeth Guigou disait, et il remerciait le président Compaoré pour sa gratitude pour le rôle qu'il joue, le rôle que vous jouez. Mais ce que je voudrais dire, je ne vois pas la différence avec la France a des intérêts, donc gauche, droite, ma foi, alors c'est tout à fait blanc, bonnet blanc. Okay. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les réseaux véritablement qui soutenaient Compaoré, comme je disais, il y a eu des enquêtes de l'ONU dont les résultats sont accessibles, ont été publiés, qui montrent que Blaise Compaoré a soutenu de manière très claire, avec armes et bagages, Taylor, il a soutenu la tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire qui a dégénéré par la suite, mm-hmm. Il a continué de soutenir d'ailleurs, mm-hmm. Et il en a profité pour faire des affaires, vendre du cacao et plein de choses qu'il ne produit pas au Burkina mais qu'il vend quand même. Et il a, oui, il a protégé les trafics d'or, de diamants et de cocaïne. Et d'ailleurs, c'est l'ONU qui le dit, c'est pas moi. C'est l'ONU qui dit, il y a des rapports qui sont accessibles. Et le Burkina était devenu une plaque tournante pour les narcotrafiquants. Voilà, bien sûr. Et ça, c'est les rapports de l'ONU qui le dit encore une fois. Là, ça, c'est. Et il y avait sa complicité, évidemment, avec le colonel Kadhafi. Eh bien, et puis son ambiguïté vis-à-vis des mouvements djihadistes qui étaient devenus un fonds de commerce pour lui et pour aussi continuer à manipuler aussi les Européens. Mmh. Vous vous souvenez d'ailleurs.
Les Touaregs et les autres.
Souvenez-vous d'ailleurs du président Bongo qui était capable d'un coup de crayon de rayer des noms sur une liste
d'un projet gouvernemental d'élection, enlever
un ministre français. Alors qu'il a été incapable de construire un seul hôpital digne de ce nom pour y mourir tranquillement dans son pays. Donc là-dessus, c'est des systèmes véritablement mafieux qui sont soutenus d'une manière ou d'une autre par l'extérieur, par l'intérieur, mais surtout par notre incapacité souvent à non seulement à nous mobiliser, à nous organiser. Au Burkina, on a prouvé qu'on pouvait s'organiser dans d'autres pays. Rappelez-vous que dans d'autres pays aussi, les gens sont soulevés. Mais le souci, c'est que lorsqu'on se soulève, lorsqu'on n'est pas suffisamment bien organisé, lorsqu'on n'a pas bien réfléchi au projet à mettre en œuvre par la suite, on se fait inévitablement récupérer la victoire par des spécialistes, entre griffes, qui seront capables de défendre encore les intérêts de ceux qui leur donneront les moyens de prendre la place qui ne leur revient pas quant au fond. Donc il s'agit de ça. En ce qui concerne les référendums, évidemment, toutes les élections que Compaoré a remportées jusqu'à présent, ils ont été remportées avec des scores fleuves. Parce qu'il avait...
soviétique.
Et souvenez-vous d'ailleurs de cette émission qui est passée et sur les chaînes de télévision françaises, où un ancien des renseignements généraux français a dit clairement qu'aux dernières élections présidentielles au Gabon, les fils Bongo avaient perdu, c'est eux qui ont inversé les résultats avant de le prononcer.
Il est arrivé troisième.
Il était troisième, il était éliminé. Mm-hmm. Il était exclu. Voilà pourquoi la constitutionnalité et la démocratie telle que le propose la constitution de 1958 de France n'est pas celle qui correspond forcément à nos attentes, à nos aspirations.
Encore que mais si on l'appliquait déjà comme les Français l'appliquent, on n'en serait quand même
bien entendu.
Parce qu'on n'applique rien dedans.
La question est beaucoup plus complexe. Il est évident que ce que fait aujourd'hui le lieutenant-colonel Zida, l'armée, aujourd'hui, ne doit pas nous surprendre. Et ça dénote aussi d'une impréparation, de la surprise qui est celle de l'opposition, cette opposition qui certes était rassemblée et d'accord sur un impératif, le départ de Compaoré, soit maintenant, soit en 2000, soit à la fin 2015. C'est les jeunes d'ailleurs qui ont imposé à l'opposition politique de réclamer son départ immédiat.
Oui,
une fois que ça s'est fait, comment est-ce que nous nous organisons? Comment est-ce qu'on s'organise?
C'est ça.
Là est la question
justement,
essentielle.
Ça nous amène à ça pour peut-être l'édition. Voilà.
Arrêtez de chanter dans le village, depuis que le tombeau sacré annonce à l'orage, depuis les nombreux conseils des vieux sages et les rituels des marabouts au bord du rivage. La nouvelle fut dite par la plus vieille barbe, sous l'ombre du plus vieux témoin, le baobab. Notre souverain roi est malade, prions pour lui, car le malheur jamais ne tarde de frapper à la porte de l'inconnu, mais de sa majesté le roi qui de nous l'aurait cru. Il y a les forts, les faibles et les peureux, il y a déjà ceux pour qui la santé du roi importerait peu. Il y a ceux qui craignent pour la population et ceux qui déjà sucent le sang de la succession. Le village avait changé de visage, rien du futur n'annonçait un bon présage. Des notables aux griots jusqu'aux sages, tous étaient devenus de nouveaux personnages. Le chapeau du chef flotte dans l'air, les têtes se cognent pour savoir qui le portera, que la paix aille mourir à la guerre, pourvu qu'il y ait une tête qui soit couronnée roi. Le chapeau du chef flotte dans l'air, les têtes se cognent pour savoir qui le portera, que la paix aille mourir à la guerre, pourvu qu'il y ait une tête qui soit couronnée roi. Petit à petit, comme un effet magique, chaque notable découvrait sa différence ethnique. À chaque enfant, on comptait l'ingratitude de la race venant du nord ou de ceux venant du sud. Entre sages et notables, deux camps, les frères, les fils et les cousins du roi, deux camps. Entre autochtones du village de camp, plus personne ne se rendait désormais au champ. Les machettes étaient aiguisées chaque matin, ça viendra le jour où je vais découper le voisin. Même mourant le roi demandait des fois comment va le peuple, comment vont les villageois. Sages et notables répondaient d'une même voix, tout va pour le mieux, il se porte bien mon roi. Nos récoltes seront bonnes cette année, même si ça fait 3 mois qu'aucune pluie n'est tombée. Le chapeau du chef flotte dans l'air, les têtes se cognent pour savoir qui le portera, que la paix aille mourir à la guerre, pourvu qu'il y ait une tête qui soit couronnée roi. Le chapeau du chef flotte dans l'air, les têtes se cognent pour savoir qui le portera, que la paix aille mourir à la guerre, pourvu qu'il y ait une tête qui soit couronnée roi. Le problème d'un roi est la distance entre la vérité reçue et ce que le peuple pense de lui. Malgré la tension qui devenait immense, c'est sur les mêmes mélodies que le griot du roi danse. Le miel attire les mouches, la pourriture aussi. La royauté attire du monde, mais la chute aussi. Les riches ont fait partie, femmes et enfants. Dans le village, il ne restait que les familles des pauvres gens. Victimes innocentes des manigances, si proches d'un futur teinté de violence. Les ennemis anciens amis du roi attendent. Ils attendent patiemment que le naturel le bonde, afin que coule le sang de la vengeance. Soignez les plaies ouvertes par tant d'années d'allégeance. Le roi va mourir, le village le sait. À l'après lui, même le roi n'y avait pas pensé. Le chapeau du chef flotte dans l'air. Les têtes se cognent pour savoir qui le portera. Que la paix aille mourir à la guerre, pourvu qu'il y ait une tête qui soit couronnée roi.
Fréquence Paris Pluriel 106.3 et vous écoutez Front Africain avec nos invités autour de la table, Makaela Koulibaly, Yves Macré à Vienne en Autriche. Évidemment, on passe la parole à Hortense. Avant, après Koulibaly, je veux revenir vraiment comme tu y étais. Je veux une question assez redoutable. On t'envoie demain matin remplacer le colonel Zida, on dit bon, voilà, ça nous amène à la dernière partie, le défi. Maintenant qu'on a fait le soulèvement, on a fait partir celui qui croyait être Dieu immortel du Burkina, ben il suffit pas de faire partir quelqu'un. Faut-il encore faire que le pays tourne? À toi.
Non, justement, c'était dans le même sens, c'est-à-dire fort de tout ce qui a été dit par les uns et les autres, quel défi? Je ne sais pas si on peut le mettre au singulier ou au pluriel. Hein.
Plutôt pluriel.
Plutôt pluriel. Attendre le futur président. Encore la question, c'est de savoir qui est le futur président. Où est-ce qu'on en est? Parce qu'à l'heure actuelle, les comment tractations vont bon train.
Comment on l'aura?
Comment on l'aura? Voilà. Il y a la société civile, il y a les partis politiques. On n'arrive pas encore à dégager l'homme providentiel qui pourra assurer la transition. Parce que ce n'est pas encore le pouvoir. Ça, non, c'est la transition. Non. Et la question, donc, c'est quel le défi? Et moi, je voulais vous poser, est-ce qu'il y a un? Actuellement, pourquoi dans l'opposition, personne ne veut assumer le sacrifice suprême, accepter? Parce que celui qui se présente, qui assurera la transition, forcément, ne se présentera pas aux élections. Donc, on a à la présidentielle.
En novembre l'année prochaine.
On ne sait même pas encore si c'est en novembre. Il faut déjà savoir combien de temps durera la transition. Ça, nobody knows, comme disent les Anglais. Donc, en réalité, la question, c'est, y a-t-il quelqu'un prêt dans l'opposition, si tant qu'on n'en trouve pas dans la société civile, qui puisse assurer cette transition? Et peut-il se sacrifier? Y a-t-il un qui puisse se sacrifier? Et quand cela sera fait, quels défis attendent donc le futur président?
Avec les chances de ne pas recomparer le Burkina.
J'anticipe pour prendre un peu la parole et recadrer un peu le débat. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas, dans cette phase difficile, là, parler de défis. Parce qu'il faut parler d'abord de la transition démocratique apaisée. Vous savez, il faut d'abord, malheureusement, jusqu'à là, on a remarqué qu'il y a faute de consensus au sein de la classe politique. Moi, je le souhaitais, si c'était Burkinabé, si c'était un acteur Burkinabé, acteur politique Burkinabé, je le souhaitais que la transition soit menée par un membre de la société civile. Et qu'après,
Débat en cours, là, aujourd'hui, en cours.
Justement. Donc les défis seront peut-être évoqués lors de la prise du pouvoir.
Alors, supposons que ce soit fait, nous ne saurons pas, on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Oui. Peut-être que toutes les émissions ne reviendront pas forcément sur le Burkina Faso. Nous anticipons nous projeter dans le futur.
L'impréparation en fait. Les événements se sont entrelacés, les événements se sont précipités pour le départ de Blaise Compaoré. Personne ni s'attendait à préparer la transition apaisée. C'est comme en Tunisie, c'est comme un peu partout là où il y a des révolutions qui sont, à excepté le Sénégal où les choses sont bien passées. Au Burkina, on a au même cas de figure où
de toute façon, même les acteurs qui sont rentrés dans la rue, je crois pas qu'ils imaginaient que le président partirait aussi rapidement.
C'est le propre de l'histoire, Makaïla. Les événements, justement, qui se sont bien de qui on n'a pas prévu. Il faut parfois
prévoir. Maintenant, ce qu'il faut appeler, franchement, au sens très élevé de tous les acteurs politique burkinabé, y compris les membres de la société civile, les mouvements déjà.
Ils ne peuvent pas aller à la même vitesse.
Toutes les forces vives du pays doivent au moins avoir dégagé un consensus.
Ça, c'est le souhait que tu exprimes.
Justement.
Dans la réalité, ça ne peut pas se passer comme ça. Il faut admettre, si on croit à la démocratie, il y aura toujours des voix contraires.
Tout à fait.
Mais il faut que
la majorité, l'essentiel, choisissent de marcher ensemble. Parce qu'il y aura toujours qui ne seront jamais d'accord. On ne peut pas les reprocher et les éliminer. C'est parfaitement leur droit.
Parce que le docteur Yves Amaïzo a parlé de quelque chose de très important. Il parlait déjà des dissensions au sein de l'opposition. Vous voyez, ça fait quand même plus de deux
mois. Non, mais non plus.
Oui, pourquoi l'opposition? Oui, c'est ça. Parce que les transactions, ça dure depuis un petit moment. Absolument. Je dis, normalement, si tout était, si les choses allaient aussi rapidement que fut la chute de Blaise Compaoré, on serait déjà en avoir quelqu'un déjà pour la transition. Mais ça fait déjà un petit moment que ça dure. Donc la question de savoir quelqu'un de la société civile.
Ce n'est pas véritablement une dissension. C'est juste ce qu'on appelle une incompréhension entre les vous savez, toute la classe politique.
Ou le débat, il faut débattre. Oui. C'est ça, une société démocratique, c'est le débat.
Oui, docteur Amaïzo.
Oui, moi, vas-y. Votre collègue a parlé d'incompréhension entre les partis politiques.
Oui, Makaïla a parlé de ça.
Pour certains d'entre eux, non, il s'agit tout simplement de deux groupes. Il y a un groupe qui a un programme, et dans ces programmes, il y a la prévision, que faisons-nous en cas où ce monsieur, Blaise Compaoré, s'en va. Donc, il y a des gens qui ont prévu ça, avec un certain nombre de logiques qui devraient suivre. Il y a d'autres qui ne l'ont pas prévu du tout, surtout les partis plus ou moins antennes satellitaires de Blaise Compaoré lui-même. Entre les deux, on ne peut pas parler d'incompréhension, parce que ce sont des choix stratégiques radicalement opposés. Maintenant, voilà ce qui arrive. Il y a un individu qui s'appelle le militaire, qui rentre dans le jeu, qui lui fait un coup d'État. Il faut arrêter, on n'est plus dans l'insurrection, hein. On est dans un coup d'État. Et lui dispose de la force qui lui a été conférée par une puissance extérieure, et qui lui donne des instructions. La première, vous ne touchez pas à Blaise Compaoré. Ils ont fait ça. La deuxième, vous créez la confusion totale et vous ressortez les rois et les machins qu'on rencontre autour de la pays traditionnelle. Comme ça, lui, il va vous dire, on veut la paix. Avec ces deux éléments, on neutralise l'impunité. Ou on le repousse au calende grec ou burkinabé. Maintenant, il s'agit de trouver un soi-disant personnalité qui va faire la transition. Croyez-vous, essayez de réfléchir sur la méthode de choix de cet individu. Nous sommes ici ensemble. Si entre nous, nous devons choisir cet individu, comment nous allons opérer? Mais nous mettons le nom de Madame X sur la table et nous tous, nous votons. Qu'est-ce qui va se passer? Si je ne suis pas content de Madame X, je vote contre. Elle est donc éliminée. Et vice-versa. C'est-à-dire que nous allons nous éliminer mutuellement. Donc la proposition de passer par une société civile, elle est bonne. Ou même la diaspora, elle est bonne. Sauf que on revient à l'économie. C'est-à-dire que cette personnalité ne pourra pas, un, fonctionner tout seul, il n'y a pas la science infuse, donc ce sont des équipes qui auraient dû venir au pouvoir. Et ces équipes, ce sont des préparations dans les programmes politiques, justement de l'opposition. Et s'il y avait eu un accord sur les programmes politiques, les personnalités auraient émergé du coup, y compris pour la transition. C'est ça la grande erreur de l'ensemble des oppositions africaines dans les zones francophones. Et je maintiens, ils sont non seulement très souvent pas préparés, mais écoutez, il y a certains qui prennent l'argent. Faut pas non plus se fermer les yeux ici. Nous sommes entre nous, nous devons dire la vérité aussi. Ce n'est pas que la faute de l'extérieur. Il y a des gens qui mangent et mangent très bien même. Il suffit de regarder d'ailleurs le niveau de ventre. C'est presque s'ils avaient des enfants, des jumeaux dans le ventre. Donc, il peut passer ça sur le côté.
Ils pratiquent la politique de la ventrologie, alors.
Les bedonnants.
Revenons à l'essentiel. L'essentiel est le futur immédiat. Il faut donc aller vers cette transition. D'ici une dizaine de jours, compte tenu de ce qu'a dit l'Union africaine, parce qu'on n'en a pas parlé de la CEDEAO, sachez bien que cette Union africaine, elle était très silencieuse quand il se passait beaucoup de morts, justement, au Burkina Faso. Donc, sa crédibilité pour donner des instructions aujourd'hui au Burkina est très difficile. D'ailleurs, le lieutenant-colonel lui a dit carrément, écoutez, nous ici, on verra bien si on tiendra le timing, on ne tiendra pas le timing, mais il y a une volonté réelle d'aller vers l'apaisement et vers la paix, et je pense que ça devrait se passer quand même de manière paisible. Le problème n'est pas ça, le problème est que de savoir si la paisible veut dire qu'on va mettre quelqu'un qui gentiment, doucement, va mystifier tout le monde et ne va pas écouter le peuple, et qu'au fond, va faire continuer ce qui se passait avant sous des formes beaucoup plus anodines et beaucoup plus souples, en achetant ici et là les uns et les autres, est-ce que c'est ça que voulait le peuple burkinabé? Est-ce que c'est ça qui garantit un futur paisible, justement? Est-ce que c'est pas ça qui va demain va créer des forces terroristes noires africaines burkinabées? Sachez que dans les forces terroristes qui sont au Mali, on a des Sud-Africains, on a des Africains de l'Ouest noirs. Il n'y a pas que des forces arabes, il n'y a pas que des gens venus de l'extérieur. Donc ces forces qui aujourd'hui sont dans des combats ici et là, risquent, et d'ailleurs ils l'ont déjà fait, de s'agglomérer pour aller attaquer des causes communes si ces injustices et c'est le refus d'écouter ce peuple se met en place. Donc, moi, je conclurai. Il faut absolument trouver un moyen que ce soit une sorte de, j'aime pas le mot gouvernement d'union nationale, mais des gens, ce n'est pas un sacrifice non plus, comme a dit madame, il s'agit pas de sacrifier quoi que ce soit, il s'agit des gens qui ont une haute valeur de leur pays, c'est un pays après tout des hommes et des femmes intègres, on doit pouvoir trouver des gens, un groupe de gens intègres, qui ont une même vision de créer ce que j'appelle moi la vérité des urnes. Il faut revenir à ce que veut le peuple burkinabé, pas ce que veut la France. Pas ce que veut les États-Unis, pas ce que veut les groupes militaires installés, pas ce que veut Bolloré ou les bandes qui sont au fond d'investissement dans ce pays. Bien sûr, il ne s'agit pas d'aller contre leurs intérêts en tant que tels, mais il faut négocier. On ne peut pas venir dans un pays enclavé, prendre l'essentiel de la richesse et partir en laissant plus de 50% de la population, notamment des jeunes, demain sans emploi parce qu'on ne veut pas créer l'industrie. Parce que c'est ça aussi le futur du Burkina Faso. On ne peut pas continuer à vendre des cacahuètes, le coton, etc. Et quand ça chauffe à l'OMC, le même Burkina Faso refuse de s'aligner sur le Brésil pour pouvoir attaquer les États-Unis, pour que les États-Unis ont refusé et ont continué de donner les subventions, ou même l'Europe qui continue à donner les subventions. Attention, c'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Il faut des gens donc courageux. Il ne s'agit pas d'être intègre là. Il s'agit d'être courageux pour que des positions officielles soient validées, soutenues par les populations. Et si les populations, encore une fois, sont mis au rencard, et que les gens qui sont là, entre eux, entre ces groupes ésotériques, et je reviens dessus, parce que ça se passe dans les groupes ésotériques, les plupart des grandes décisions se prennent dans ces groupes ésotériques.
Absolument.
Il n'y a pas besoin de citer tel ou tel nom. C'est quand ils ont pris des décisions là-bas, qu'ils viennent l'imposer aux civils. Il ne faut pas sous-estimer cela. Je ne dis pas que l'un est bon ou l'un est mauvais, je ne les connais même pas fondamentalement. Mais j'essaie de vous montrer qu'il y a des choses qui se prennent en décision ailleurs que là où on croit. Et donc, l'essentiel pour moi, c'est une usurpation de la capacité d'un peuple, pour qu'il avait en l'occurrence, de choisir ses dirigeants pour une transition d'abord, et demain pour une vie un peu plus intéressante.
Problème de choix, et comment ça va, les choses vont aller. Je reviens à toi, Coulibaly, une espèce d'entêtement à ton égard. Et demain matin, comme ça, au moins c'est parlant, quoi. Tu es devant là, tu vas nous dire, voilà. Tu fais ce qu'Yves vient de dire là, tu dis, ah, mais c'est bon. Je sais que c'est un problème de stratégie. Souvent, ce qui manque beaucoup aux Africains, Yves, souvent dans ses écrits, dans son livre, c'est vrai qu'une de nos carences, la stratégie, c'est pas comme ça, je te donne c'est pas du tac au tac. Il faut réfléchir et puis se mettre en action, trouver les moyens d'y aller, c'est-à-dire la tactique pour arriver demain matin, on va tu trouves trois copains avec qui on va dire tromper là comme les autres, mais positif cette fois-ci. Par quoi il faut commencer? En admettant que la transition, comme vient de dire Hortense, se passe bien. On va être optimiste, hein. Faut pas, voilà, hein. On va trouver quelqu'un qui accepte de le faire et le bien faire. Non pas pour se garder ou à la fin, créer encore des zizanies pour retarder le pays.
Il faut que les Africains puissent apporter la preuve que la politique est un engagement noble et que c'est un sacerdoce, surtout lorsqu'on décide de pratiquer cette activité en Afrique.
Être au service des autres.
Être au service des autres. Et donc c'est cela d'abord qu'il faut. Alors que jusqu'à présent, les Africains, pour la plupart, que ce soit au niveau des peuples, au niveau des dirigeants, ont considéré que la politique était une échelle courte pour s'enrichir au plus vite, le plus rapidement possible. Et là, à force de voir nos dictateurs successifs depuis les indépendances s'enrichir d'une manière aussi honteuse et aussi fulgurante, on finit par intégrer ça comme une donnée. Et ça galvaudait complètement l'idée de politique. Donc il faut déjà réhabiliter cela. Il faut que les Africains, quand ils se soulèvent, puissent continuer ces soulèvements en choisissant, puisque nous ne pourrons pas faire l'économie de ce passage,
absolument,
à un moment donné,
il va toute façon,
une fois qu'on aura fait le point, il faut nécessairement faire le point. Une fois que ça c'est fait, nous devons trouver les garde-fous nécessaires qui éviteront que qui que ce soit, aucun groupe
il y a des récidives,
ne puisse justement confisquer à nouveau la liberté si chèrement acquise. Et c'est ça qu'il faut. Et pour ça, il faut une réflexion, il faut une sorte de catharsis. C'est pourquoi je disais tantôt que il faut que nous aussi, nous ayons dans nos pays des jours de recueillement pour nos morts qui se sont battus pour nous, pour la liberté, comme pour ne jamais oublier, pour nous rappeler de l'essentiel. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que un individu, on l'a vu, quand Lumumba s'est dressé, il a été assassiné. On a vu ce qui s'est passé avec Kwame Nkrumah. On a vu
ce qui s'est passé au Cameroun avec Mbonimpa,
bien sûr, on a vu
et Moumié.
On a vu comment aussi certains, les Français à l'époque, ont fait fabriquer des billets d'argent, de l'argent guinéen, des francs guinéens pour les déverser pour casser l'économie là-bas, parce que ils n'étaient pas d'accord avec Sékou Touré. On a vu comment ils ont assassiné Sankara. On a vu comment ils ont délivré. Ils ont soustrait Blaise Compaoré à la justice de son pays d'abord. Alors que lorsque il y a eu la victoire avec la participation du monde libre. Ce monde libre, les Africains en faisaient partie, à travers les tirailleurs sénégalais et à travers l'effort de guerre que nous avons fourni en ce moment. Quand ça s'est passé en France, il y a des gens qui ont été jugés. On a été, aujourd'hui encore, on va les chercher pour les juger.
Absolument.
Pourquoi les Africains qui sont soulevés, qui meurent, l'ONU a montré que Compaoré a commis beaucoup de crimes. Pourquoi on les soustrait? Alors que ici, le général de Gaulle, quand il est arrivé, il a dit non, il faut ceci ou c'est faux cela. Pourquoi chez nous, ça serait pas pareil? Alors, donc, il y a ça, bon, ça c'est. Mais maintenant, sur la suite des événements.
C'est ça.
C'est ça qui est important. C'est ça qui est délicat.
C'est ça.
Là, l'idée de mettre un civil, c'est une question de principe qui s'explique par l'histoire chaotique des militaires à la tête des États africains, notamment en ce qui concerne les Burkina. Ça fait un demi-siècle que les militaires gouvernent. Et ce n'est pas acceptable. Mmh. Et du coup, ils ont oublié même leur mission première, qui concerne authentiquement la défense de la nation et à tout point de vue.
Pas seulement
la guerre, mais également quand le pays est en danger, on peut faire appel à des militaires pour construire des maisons, pour faire des tas de choses comme ça. Les Américains d'ailleurs viennent d'envoyer en ce qui concerne les bois. Donc là, ça c'est une armée nationale. C'est ce qu'elle doit faire. Et non pas faire de la politique et s'enrichir jusqu'à ce que ça donne des grossièretés comme le système Compaoré. Que c'est pas seulement des grossièretés, mais c'est des affres.
Des scandales.
Des scandales, des affres pour les peuples. Donc c'est une question de principe. Sinon, ce qu'il faut, si même la France a eu un général à la tête de l'État à un moment donné.
Ce qu'il faut, c'est
un groupe ou plusieurs groupes d'hommes intègres et courageux, effectivement. Je dirais même plus audacieux, mais surtout clairvoyant, et qui soit à l'écoute du peuple. Parce que le peuple, une fois qu'il se lève et qu'il se dresse, qu'il fait sa révolution, et que certains des enfants de ce peuple tombent, ça ne résout pas pour autant la question. Tout le monde ne peut pas être... Ce sont les représentants, aujourd'hui ce sont les représentants des organisations qui se sont battues pour ça, donc c'est toute la société. Ce sont leurs représentants qui discutent pour essayer de trouver un consensus. Mais dans le même temps, quand on parle de consensus, il faut d'abord régler la question essentielle. Parce que le général Dinguiri, qui était le chef d'état-major particulier de la prison, qui est le responsable de cette unité,
Il est encore en liberté à Ouaga.
Et là, ça veut dire que rien n'a changé fondamentalement en dehors du fait que Compaoré soit parti et qu'il a été mis en sécurité.
Le fait que Compaoré soit
à Yamoussoukro à côté, qui est un de ses fiefs, puisqu'il a foutu
la guerre,
donc c'est un de ses fiefs là-bas. Qu'est-ce qui prouve qu'il ne télécommande pas certaines choses?
C'est-à-dire
qu'on a volé déjà, on a commencé à voler au peuple. Maintenant, il ne faut pas non plus diaboliser tous les militaires. En 2011, ils se sont soulevés. Parmi les officiers, il y a des hommes intègres aussi. Donc il ne faut pas que les Africains continuent à se faire empoisonner l'esprit et en s'opposant les uns aux autres. Nous avons besoin aujourd'hui d'un rassemblement nécessaire de tous les patriotes africains. Et sans pour autant insulter l'extérieur n'importe comment, parce que nous aurons toujours besoin, mais d'une coopération saine. Nous avons une histoire commune, par exemple, pour ce qui concerne l'Afrique francophone, avec la France. Maintenant, il faut mettre carte sur table. Mais avant cela, nous avons besoin, effectivement, d'un changement véritable de mentalité, comportement, et surtout, redonner ces lettres de noblesse au métier des politiques. Parce que ce n'est pas un métier, c'est un service.
Avant de venir aux éléments de conclusion, dernière musique, Lucien veut nous faire respirer, il veut pas qu'on meure, qu'on crève.
Personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. J'ai dit personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Il faut se lever, lever, lever pour changer tout ça. On doit se lever, lever, lever pour changer tout ça. Il était une fois un continent pris en otage. Se demande pourquoi il ne peut pas sortir de sa cage. Il faut se lever, lever, lever pour changer tout ça. On doit se lever, lever, lever pour changer tout ça. cherche le bonheur dans les cartes. On cherche mais on ne le trouve pas. Pourquoi faut-il toujours qu'on parte alors que l'Eldorado est là? On veut voler de nos propres ailes. C'était le rêve de nos aïeux. Elle est pas si loin l'étincelle. Il suffit qu'on ouvre les yeux. Il faut se lever, lever, lever pour changer tout ça. On doit se lever, lever, lever pour changer tout ça. Personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Je dis personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Il faut se lever, lever, lever pour changer tout ça. On doit se lever, lever, lever pour changer tout ça. N'ayons pas peur de l'ouvrage. Et tout reprendra zéro. N'ayons pas peur, tournons la page pour construire un monde nouveau. Il faut se lever, lever, lever pour changer tout ça. Et
quand on se plie,
on doit se lever.
FPD 106.3 FM et sur internet www.rfpp.net. C'est voilà. R, c'est la radio, et trois lettres de nom de la station, du nom de la station. Si vous êtes hors de Paris, n'importe où au monde. On va, malheureusement, toute bonne chose a une fin. On va, je suis sûr que vous qui nous écoutez, vous aurez souhaité que l'on reste, que l'on continue, parce que malheureusement, ce continent avait les problèmes qu'il a, et puis, même de l'exemple dans l'actualité, j'avoue que bon, personne n'est encore certaine de la manière dont les choses vont évoluer à Ouagadougou. La chose qu'on souhaite, c'est surtout que l'espoir du peuple soit cette fois-ci vraiment atteint. C'est vrai, malheureusement, il y a un inconvénient, j'allais dire politique, démocratique. Le peuple, la foule ne peut pas gouverner. C'est ça le problème. Je crois que le problème politique se poserait pas si la foule pouvait gouverner. Parce que la foule, malheureusement, pour ceux qui ont lu Gustave Le Bon, n'a pas de mémoire, n'a pas de parole. Ça fait faire, le peuple fait faire, mais le fait pas directement lui-même, tout simplement pour des raisons pratiques. Là où la démocratie trouve sa raison d'être. On va, quelques mots, on va faire le tour de table. Peut-être qu'il faut qu'on commence par ce qui est loin, par Yves, qui est loin. Parce que comme ça, pour qu'il ne soit pas défavorisé. Ici à table, on peut se contrôler. Mais comme lui, il ne peut pas le contrôler. Yves, pardon. Voilà, quelques mots de conclusion. On y reviendra un jour. Parce que malheureusement, ce n'est que le commencement des difficultés africaines.
La conclusion que je souhaite partager avec vos auditeurs est le suivant. En plus d'une trentaine d'années de gestion de militaires autocrates, quel que soit leur représentant, ici c'est Blaise Compaoré, mais c'est valable pour les autres pays.
Absolument.
La gestion économique, le bilan économique, on peut même plus parler de mitigé. Il est mauvais. Rapidement, négatif. Moins 2,8% d'un solde budgétaire dans les années, assez loin d'ailleurs, 1997 à 2002, on est passé à des moins 10, des moins 8 aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a creusé tout simplement le déficit. Donc ce sont des mauvais gestionnaires. Quand on parle de mauvaise gouvernance, ça fait trop théorique. Ce sont des mauvais gestionnaires. Si une femme devait gérer sa maison de cette manière, ça veut dire qu'elle a en fait endetté à tel point qu'elle ne pourra même plus payer à manger à son enfant, ce qui est le cas d'ailleurs du Burkina Faso, puisqu'on ne peut pas assurer l'emploi pour plus de 50% des jeunes de ce pays. Mauvais gestionnaires. Donc ils doivent partir. Et on ne veut plus les voir. C'est très important. On ne veut plus les revoir. Mais on ne veut pas qu'ils soient maintenant cachés sous le manteau comme ils ont fait ici et là. C'est tout le problème africain. Comme nous aimons trop la non-transparence, que les opposants n'arrivent pas à s'exprimer à des télévisions, à des radios de manière transparente, que eux-mêmes la nuit, ici et là, vont discuter en douce pour pouvoir faire des arrangements plus ou moins tordus, on n'arrive pas à que cette transparence, cette vérité des urnes permette aux populations, donc, de pouvoir sanctionner la mauvaise gestion. Parce que c'est aussi de ça qu'il s'agit. Les sanctions, maintenant, devra tôt ou tard évoluer vers le refus de l'impunité. Et c'est à ces deux-là qui vont permettre un retour à la confiance, qui prendra un tout petit peu de temps, et qui sera lié à ces hommes et femmes intègres du Burkina Faso, à qui je fais pleine et entière confiance. Encore faut-il que si le régime français, tel qu'il est aujourd'hui, accepte un tant soit peu, soit de ne pas faire revenir ce monsieur, puisqu'ils l'ont exfiltré, ils peuvent aussi peut-être le faire revenir.
Absolument.
Et deuxièmement, hélas, ne pas le faire revenir sous un autre nom, qui ne sera plus basse comparée, mais un nom plus gentil, plus conciliant, plus etc. À ce moment-là, oui, cette indépendance que nous, après laquelle nous courons en 60, peut-être qu'il est en train de revenir, et il ne pourra pas se faire sans la démarche économique. Il faudra que ce pays accepte, et le fasse avec courage, de diversifier. On ne peut pas tout faire essentiellement avec la France.
Merci Yves. Donc, souveraineté, compétence et patriotisme, si nous voulons vraiment avoir une autre image du continent. Makela.
Mais d'accord, merci beaucoup aussi pour Yves, hein, pour ses analyses assez éloquentes, surtout beaucoup plus éclairées sur la vision économique de l'Afrique post-coloniale, mais surtout post-mouvement insurrectionnel. Donc pour revenir effectivement au débat, c'est que moi je tiens à remercier d'abord le peuple burkinabé, et espérons que c'est le seul pays africain qui a pu, à travers la rue, mener ce qu'on appelle une insurrection populaire, ce que nous appelons aujourd'hui, bien tous les analystes, tous les chroniqueurs parlent du printemps africain. Et donc que ce printemps africain se transpose un peu partout et que cela puisse avoir un effet domino un peu partout, à ce que les pays africains, que ce soit en Afrique centrale, les pays sous domination française, puissent aussi se libérer, et que franchement l'expérience burkinabé puisse servir de catalyseur pour d'autres populations africaines opprimées par des réseaux franc-maçonniques, par de réseaux extérieurs qui effectivement ont pillé l'Afrique durant des années. Je pense qu'effectivement c'est le signal fort envoyé à tous les dirigeants, et que nous en appelons effectivement aux forces vives africaines, que ce soit au niveau de la société civile, que ce soit au niveau des acteurs politiques, pour une solidarité intra-africaine, pour une solidarité internationale, pour que franchement qu'on dépasse cette période assez triste, et que tournoi page, comme l'a dit effectivement une organisation africaine qui a lancé une pétition qui s'appelle Tournons la page. Effectivement, on est en train de tourner la page pour l'Afrique. Et encore une fois de plus, merci à vous, effectivement, qui m'avez invité à ces débats autour de questions africaines.
Merci à Rontas. Non, mais faudrait un jour, Makaila, comme tu as mis l'accent sur ces groupes, ces pouvoirs invisibles, et ça va jusqu'à énerver presque Yves à Vienne, qu'on revienne un jour. Pourquoi ils font pas dans nos pays? Ils font le contraire. Parce que la maçonnerie, ce que j'ai lu dessus, ça a aidé pour les maçons de la femme française, les femmes européennes. Ça, c'est républicain. Pourquoi en Afrique, c'est exactement le contraire? C'est même pire que le racisme. On y reviendra un jour comme sujet. Koulibaly.
En effet, bon, oui, la maçonnerie est censée être humaniste. Et je pense que dans l'histoire de la République française, il y a eu des épisodes qui l'ont prouvé. Et ils ont été impliqués dans la Révolution française, absolument, absolument, au siècle des Lumières, et puis plus récemment aussi sur les droits des femmes et pas mal de choses. Et même des réflexions
sur la question. Et même des déportations pendant l'occupation.
Bien entendu, ils ont été attaqués par les nazis et par l'extrême droite, ainsi de suite. Alors en Afrique, ben, certains utilisent ça pour leurs intérêts personnels. Je ferme cette parenthèse pour dire quand même que aujourd'hui, il y a un impératif de réussite de ce mouvement historique au Burkina pour l'Afrique, dans l'intérêt de l'Afrique. Souvenez-vous que au Mali, Moussa Traoré, ce dictateur qui était là depuis longtemps, a fait tirer sur les jeunes, sur la foule, sur la population, sur le peuple, 200 morts. Et ça n'a pas empêché que nous connaissions ce qui se passe aujourd'hui au Mali.
Absolument.
Ensuite, le Congo, il y a une guerre. Sassou est revenu quand même. Il y a eu des morts. Ça a donné ce qu'on
40 000 connaît. Morts.
Au Ghana, Rawlings, il a exécuté des gens qui n'étaient pas bien. Il est parti. Ils ont fait la même chose. Il est revenu. Il en a exécuté d'autres. Ça, il y a la transition. Il y a des efforts. Sans économie, il faut que nous soyons productifs, que nous soyons intelligents, que nous puissions être recentrés, plutôt que de chercher à aller investir des biens mal acquis, aller les investir en Europe, plutôt que d'investir sur un programme économique très clair pour l'Afrique. Merci. C'est ça qui va nous libérer.
Merci Koulibaly. Merci. On vous remercie de nous avoir écoutés. On vous retrouvera, même antenne, même bande d'écoute, avec l'équipe au complet, Hortense, moi et Lucien, le magicien qui fait que ça passe.
Merci à tous les invités. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à tous les auditeurs. À samedi prochain. Merci. Au revoir.
Merci. Merci.